7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 décembre, à 15 jours de Noël et après un nouveau week-end de violence et de mobilisation des Gilets jaunes, ce soir à 20h, le président doit parler aux Français. C'est peut-être l'allocution la plus importante depuis son élection. Que peut-il dire? Quelle est sa marge de manœuvre? Comment sortir de la crise et apaiser les tensions? On va tenter d'y répondre dès le journal de 7h avec Hélène Zellani. À 7h10, Nicolas Barré et le coût des réformes envisagées par l'exécutif. 7h40, Jean-Michel Apathy qui mettra en lumière les enjeux politiques pour Emmanuel Macron. 7h45, je reçois l'économiste et conseiller discret du président de la République, Alain Minc. Quel plan préconise-t-il pour sortir de l'impasse? Voilà pour le programme, il y aura aussi Axel de Tarlé, Jean-Philippe Ballas, David Abiker, Nicolas Canteloup, Drey Crespo-Mara, qui recevra la ministre des Armées, Florence Parly. Toute la rédaction est mobilisée ce matin pour vous informer, pour vous accompagner dès le réveil. On est ensemble jusqu'à 9h. C'est parti, Céline, bonne reprise à tous.
Oui, excellent début de semaine à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h, bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal présenté par Hélène Zellani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Après les mots qui fâchent, les mots qui calment, ceux d'Emmanuel Macron, ceux en tout cas qu'il tentera de trouver à 20h, prise de parole très attendue, même si certains gilets jaunes donnent déjà rendez-vous samedi prochain. Parmi les mesures éventuelles, la hausse du SMIC, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de coup de pouce, mais Agnès Buzyn est moins affirmative. Et puis, on finira sur une note nettement plus joyeuse qui vous rappellera des souvenirs à tous, la sortie d'un grand coffret CD des musiques de Disney. Ah. Un jour, mon prince viendra ou Supercalifragilis.
Europe 1.
Emmanuel Macron va donc devoir frapper fort pour répondre à l'immense attente des Gilets jaunes, mais surtout des Français dans leur ensemble. Plus que jamais, sa parole est attendue. Le président s'adressera à la nation depuis l'Élysée à 20h. Quels sont les espoirs, les attentes de ceux qui bloquent péages, routes et ronds-points depuis 3 semaines? Reportage à Bandol de Nathalie Chevance.
Ils ont installé un sapin de Noël juste à côté de la tente où il se relaie nuit et jour depuis le 17 novembre. Macron, avis de recherche. Voilà ce que l'on peut lire sur une pancarte. Carole, gilet jaune exaspéré, attend la parole du président.
J'ai dit que c'était l'Arlésienne, Macron. Il est en train de se faire greffer des tympans pour qu'il arrive à nous entendre. Ça serait important qu'il fasse un mea culpa, déjà, qu'il dise qu'il s'est trompé et il doit écouter son peuple.
Des mesures concrètes pour relancer le pouvoir d'achat. La revendication revient en boucle. Bernard, retraité, attend un geste politique fort pour enlever son gilet jaune.
La CSG, mais qui la retire complètement. Moi, je ne peux pas entendre qu'avec une retraite de 1200 euros, on nous considère comme riches, qu'ils ne nous prennent pas de haut. En ce moment, on n'est pas en démocratie, on est en technocratie.
Mais sur ce péage où les Macron d'émission s'inscrivent partout, beaucoup de gilets jaunes comme Gabriel estiment que l'intervention du président ne changera rien.
On ne va pas l'écouter. C'est trop tard, oui. La cassure a eu lieu et les gens qui sont ici ont besoin de fraternité, ont besoin de convivialité, ont besoin d'amour. Tout ce qui s'est perdu, c'est pas une connerie, c'est tout un système. Ça vient pas de Macron. C'était en ébullition et puis ça a explosé.
Gilets jaunes acte 5. Sur les ronds-points, les barrières de péage. La mobilisation est repartie. Bandol, Nathalie Chevance, Europe 1.
Gilets jaunes acte 5 également sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook qui appelle à une nouvelle manifestation samedi sur les Champs-Élysées. 42 000 personnes se disent déjà intéressées. 7 000 comptent y participer.
Et juste après le journal, les pistes des annonces d'Emmanuel Macron avec Nicolas Barré.
On l'a entendu, parmi les grandes revendications, il y a la hausse du SMIC. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a pourtant écarté tout coup de pouce au salaire minimum dès hier. Elle estime que ça détruirait des emplois. Argument fallacieux pour François Omeril qui représente le syndicat de cadres, la CFE-CGC.
Cette histoire de la hausse du SMIC qui détruit les emplois, c'est de la flûte, hein, c'est de l'idéologie totale. Ce qui compte, c'est l'ensemble des salaires. Le problème, il est que le logement, il a augmenté énormément sur la part des revenus que chaque personne peut consacrer. Donc tout ça fait un effet ciseau et qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus mal de son travail. Donc il serait bon, effectivement, que le gouvernement change un petit peu de discours et se coltine de façon un peu plus sérieuse avec le réel.
Le président de la CFE-CGC, qui fera partie des partenaires sociaux reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée à partir de 10h ce matin, a noté que sur cette question sensible de la hausse du SMIC, Agnès Buzyn s'est montrée nettement moins affirmative que sa collègue du travail hier soir. Il faut que les travailleurs au SMIC sentent leur pouvoir d'achat augmenter, a-t-il dit. Elle ajoute que ça peut passer par une augmentation du salaire minimum. Europe 1, il est 7h03.
Des arrestations records et à partir d'aujourd'hui, des comparutions immédiates et en série.
Oui, après les violences des manifestations de samedi, plus de 1700 personnes ont en effet été arrêtées dans toute la France, 1220 placées en garde à vue. Si de nombreux suspects ont depuis été remis en liberté, certains se retrouvent face à la justice dès aujourd'hui. C'est le coup d'envoi de deux journées de comparutions immédiates à grande échelle, Pierre de Cossette.
En temps normal, au tribunal de Paris, trois salles d'audience suffisent à gérer les comparutions immédiates. Mais cette fois-ci, il y en aura cinq et deux jours de suite. Et encore, ce n'est pas tout. Certains prévenus seront envoyés vers des tribunaux de petite couronne à Bobigny, Créteil et Nanterre pour y être jugés. Ce week-end, le parquet a fait venir quatre fois plus de magistrats que d'habitude pour examiner les dossiers et trancher, remettre en liberté certains gardés à vue en classant les affaires sans suite, prolonger ces gardes à vue ou poursuivre, avec au choix des convocations ultérieures devant le tribunal, des ouvertures d'enquête confiées à des juges d'instruction ou donc des comparutions immédiates. La semaine dernière, il y en avait eu une centaine, 26 d'entre elles s'étaient conclues par de la prison ferme, mais 20 s'étaient soldées par des relax. Cet après-midi et demain, à l'audience, on jugera des vols comme des montres de luxe ou des jets de projectiles sur les forces de l'ordre avec ce buraliste du Cher qui risque d'y laisser son emploi. Certains dossiers s'annoncent houleux avec des avocats très remontés contre des gardes à vue qu'ils estiment abusives.
Les informations de Pierre de Cossette. Plus de trois semaines de blocage, des samedis de violence avec des magasins mis à sac. À l'approche de Noël, les commerçants sont de plus en plus inquiets. Certains se demandent même s'ils arriveront à surmonter la crise. C'est une catastrophe pour notre économie, disait hier le ministre Bruno Le Maire. Pour Didier Kling, qui préside la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, ce sont surtout les pillages qui vont coûter cher.
Juste avant samedi dernier, la perte était estimée pour le commerce globalement à 1 milliard de chiffre d'affaires perdu. Évidemment, ce qui s'est passé samedi, ça va majorer de manière substantielle le montant que je viens d'indiquer. Si samedi prochain les opérations de cette nature recommencent, c'est-à-dire que le mois de décembre sera sacrifié, et ça c'est grave. C'est vraiment un coup d'arrêt dynamique.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France dans un centre commercial avec Aurélien Fleureau. On attend aujourd'hui les estimations de la Banque de France sur la croissance au quatrième trimestre. Elles donneront une première idée concrète des répercussions du mouvement.
Et ne manquez pas l'édition spéciale ce soir sur Europe 1 avec la retransmission en direct de l'allocution d'Emmanuel Macron suivie d'un débat. Rendez-vous entre 20h et 21h.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani, avec cette audition très attendue ce matin au procès en appel de Francis Holm à Versailles.
Oui, Patrick Dils sera entendu en visioconférence. Il a été le premier accusé du meurtre de deux enfants à Montigny-lès-Metz. Il a passé 16 ans en prison avant d'être définitivement acquitté. Mais les avocats de Francis Holm continuent pourtant à l'incriminer, Salomé Legrand.
Ces quelques 4 heures d'audition avaient laissé un profond malaise. En première instance, la défense de l'accusé n'avait qu'une idée en tête, faire douter les jurés de l'innocence de Patrick Dils pour qu'ils acquittent Francis Holm. Ils avaient donc cuisiné le timide quadragénaire, cheveux en brosse et visage juvénile. Après 16 ans de prison à tort, Patrick Dils a refait sa vie. Il est marié et père de 2 petites filles. Mais à le voir se tasser sur sa chaise sans oser s'emporter, le public avait vite compris comment l'adolescent de l'époque avait pu se laisser embarquer par la police dans des aveux plus vrais que nature. Devant la brutalité des questions, il avait simplement soufflé « Vous refaites mon procès ?» Ahurissant, hallucinant. Dès la semaine dernière, les avocats de Francis Holm m'ont annoncé la couleur en réclamant qu'il soit présent physiquement. Ça ne sera pas le cas, mais comme en première instance, ils vont pouvoir compter sur le soutien de la famille d'Alexandre Bécriche, toujours convaincu que Patrick Dils est responsable de la mort de leur fils et petit-fils. Un de leurs avocats avait même osé « Vous avez fait perdre 16 ans à la justice ».
Salomé Legrand. Il y a 3 semaines, Carlos Ghosn était encore le puissant patron de Renault Nissan Mitsubishi. Il vient d'être inculpé pour dissimulation de revenus sur 5 ans à Tokyo et sa garde à vue est prolongée. Inculpation également de Nissan en tant qu'entité morale.
Un peu de douceur ce matin pour commencer la semaine. Un peu de musique et surtout des souvenirs pour les petits et les plus grands.
Oui, c'est de quoi donner des idées au Père Noël. La sortie d'un coffret de 5 CD pour se replonger dans la magie des dessins animés de Walt Disney, de Blanche-Neige en 1930 à Vaiana en 2017. Les musiques de 37 films vont vous transporter avant-goût avec Thierry Geffrotin.
Si je vous dis Frank Churchill, vous me répondrez « connais pas ». Et pourtant, c'est lui qui a composé ceci.
Un jour, mon prince viendra.
La musique de Blanche-Neige. Frank Churchill, que vous ne connaissez pas donc, comme les frères Sherman d'ailleurs, Richard et Robert. Mais que serait Disney sans leur musique? Sans...
«
Le Livre de la Jungle ou Mary Poppins, la version de 1964, c'est encore les frères Sherman. Alors soyons justes, parmi tous les compositeurs qui ont travaillé pour Disney, il y a quand même des noms connus. Elton John, Phil Collins, mais on est dans les années 90 ou 2000, à une époque où le travail des compositeurs est davantage mis en lumière. Alors, mettons en lumière Alan Menken. C'est lui qui a écrit la musique de La Belle et la Bête, du Bossu de Notre-Dame ou d'Aladin.
Je vous veux dans mon équipe, Hélène Zélani.
C'est pas pour faire de la délation, mais ça chante dans le studio. Les 100 plus belles chansons Disney. 5 CD, c'est autour de 30 euros.
C'était le journal d'Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10. Souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos précisément. Alors, quelle piste pour sortir de la crise des gilets jaunes? Le président prend la parole ce soir. Mais que peut-il annoncer? Beaucoup de pistes, mais ça va coûter cher. Ça peut coûter très cher.
Oui, plusieurs pistes sont sur la table en effet. Et les arbitrages ne sont pas tous rendus, loin s'en faut. Mais le président veut des mesures avec un impact réel et rapide. Alors, compte tenu du ras-le-bol fiscal qui s'est exprimé, une première piste consisterait à accélérer la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Une première baisse de 30% est intervenue en octobre dernier. Le reste pourrait être supprimé dès l'année prochaine au lieu d'attendre 2020 comme prévu. Bilan, 3,8 milliards d'euros d'impôts en moins pour les ménages. Autre piste, les heures sup. Et là, deux choses sont possibles. Supprimer les cotisations sociales sur les heures sup. C'est prévu pour septembre prochain, mais ça pourrait être avancé en janvier. Et puis, on peut aussi aller plus loin et défiscaliser les heures sup. C'est-à-dire que ce que vous gagnez en heures supplémentaires ne soit pas soumis à l'impôt sur le revenu. La piste est sur la table. Le sujet n'est pas encore tranché.
Et pour les bas salaires, Nicolas, rien sur le SMIC?
Alors, relever le SMIC est destructeur pour l'emploi, tout le monde le sait, mais on peut contourner le problème en relevant la prime d'activité qui est versée par les caisses d'allocations familiales aux familles les plus modestes. Elle a été relevée de 20 euros en octobre dernier, elle doit l'être de 30 euros en avril prochain, puis encore de 20 euros l'année suivante. Eh bien, on peut aller plus vite sans alourdir le coût du travail pour les employeurs.
D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'on finance tout ça?
Eh bien, c'est tout le problème. Alors, un, part du déficit. Bruxelles est déjà en train de se faire une raison. La digue des 3% va céder. Mais pour que le dérapage ne soit pas trop grave, le gouvernement regarde du côté de l'impôt sur le revenu. Les tranches supérieures sont visées, ce qui suscite d'ailleurs beaucoup de débats au sein de l'exécutif et au sein même de Bercy, c'est plus inhabituel, entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Un Bruno Le Maire qui juge que la crise des gilets jaunes a déjà causé un tort énorme à l'économie et qu'il ne faut pas en rajouter en alourdissant l'impôt sur le revenu des tranches supérieures. C'est maintenant au président de trancher.
Nicolas Barré, l'édito Écho, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Et il est 7h12, c'est Carole Ferry qu'on va retrouver cette semaine sur le terrain, Nikos.
Carole Ferry, vous êtes où ce matin, Carole? Bonjour.
Eh bien écoutez, je suis dans le canapé d'une très jolie suite d'un hôtel 4 étoiles, juste à côté du Louvre à Paris. Et
qu'est-ce
cette suite, figurez-vous qu'elle était vide cette nuit, comme un tiers des chambres, car cet hôtel accueille surtout des touristes étrangers et au standard d'Adeline.
Ah, on entend le... Oui.
Ouais, eh bien les annulations s'accumulent depuis le début des émeutes des Gilets jaunes.
Ils pensent que c'est la guerre civile à Paris. Vraiment. On a des clients qui nous ont dit que tout était fermé tout le temps à Paris, tous les magasins, qu'il n'y avait plus de banques ouvertes, qu'on ne pouvait plus retirer de l'argent nulle part, que du coup c'était beaucoup trop dangereux de venir à Paris. Et du coup, il faut vraiment expliquer aux gens que les incidents qu'il y a, c'est le samedi, le reste de la semaine, Paris, ça reste Paris, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, etc.
Mmh. Alors il y a moins de clients, voilà. Est-ce que ça veut dire que les hôtels sont contraints de baisser leurs prix?
Oui, bien sûr. Hein. Ici, la chambre se loue 210 euros la nuit en moyenne. Je vous rappelle qu'on est dans un 4 étoiles à côté du Louvre. Eh bien, certaines sont bradées ces jours-ci à 77 euros du jamais vu. Et le pire, c'est que certains pays recommandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre à Paris. Ça n'arrange pas les choses. Pourtant, l'hôtel affichait enfin complet depuis le début de l'année, après le traumatisme des attentats. La responsable, Sophie, craint que l'impact ne s'installe une nouvelle fois dans la durée.
Rassurer une population étrangère sur la sécurité après les attentats, ça a été extrêmement difficile. Et là, on se retrouve dans une situation qui est certes très différente, mais qui touche exactement le même point sensible. Nous, on a même déjà des premières demandes d'annulation pour janvier. Et ça va nécessairement énormément impacter une saison qui est toujours un peu difficile, janvier-février. Nous, on sait déjà que ce sera une saison morte.
Mais Carole Ferry, les touristes qui viennent quand même ou ceux qui ne partent pas, est-ce qu'ils sont contents de leur séjour ?
Bah écoutez, honnêtement, je n'ai croisé que des touristes très contents. Ils ont juste évité finalement les quartiers les plus sensibles samedi. Pourtant, certains ont dû résister à de fortes pressions avant de venir, comme Jill. Elle est américaine et sa mère n'était vraiment pas rassurée de l'avoir passé le week-end à Paris.
Le vendredi, elle m'appelle et elle m'a simplement dit de ne pas venir, d'éviter Paris parce qu'elles ont vu sur la télévision aux États-Unis que c'était très grave.
Ils étaient inquiets ?
Oui, beaucoup.
Comment s'est passé votre séjour finalement ?
Très bien, c'était un rêve.
Voilà, ce qui était très apprécié, en fait, c'est l'absence de circulation. Et c'est vrai, vous l'avez peut-être vécu, hein, qu'il n'y avait quasiment pas de voitures ce week-end dans les rues de Paris.
Voilà, il y avait ça. Carole Ferry dans un hôtel au centre de Paris. Difficile de chiffrer pour l'instant le coût de ces actions. À 15 jours de Noël, la mairie parle de plusieurs millions d'euros. On parle aussi de 35 000 réservations dans les hôtels à Paris qui ont déjà été annulées. Et tout à l'heure, dans le journal de 7 heures, hein, Carole, c'est Didier Kling qui préside la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui parlait de plus d'un milliard d'euros de coûts jusqu'à présent à la suite de ces journées de mobilisation. Vous êtes où ce matin ? C'est tous les jours à 7h12.
Europe 1. Et il est 7h15. Restez avec nous sur Europe 1. À suivre, Nico Saliagas.
Semaine décisive en Pologne pour la COP24. Les pays signataires de l'accord de Paris doivent s'entendre sur de nouvelles mesures en faveur du climat. Il y a urgence, car à 10 000 km de là, le poumon vert de la planète est en péril. Europe 1 va plus loin, même très loin ce matin. On part en Amazonie. C'est juste après ça.
Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Emmanuel Macron s'adresse à la nation ce soir à 20h. Le président de la République doit proposer de nouvelles mesures, notamment en faveur du pouvoir d'achat. Émission spéciale sur Europe 1 jusqu'à 21h. Dans la journée, le chef de l'État réunira les partenaires sociaux et les présidents des associations d'élus pour entendre leurs propositions. Et du côté de la justice, Carlos Ghosn, inculpé ce matin à Tokyo pour dissimulation de ses revenus sur 5 ans. Celui qui a été PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a déjà passé 3 semaines en garde à vue et devrait rester en prison.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, direction ce matin l'Amazonie.
Et la COP24 qui entre dans sa semaine décisive en Pologne, les dirigeants des pays signataires de l'accord de Paris cherchent à s'entendre sur les mesures à prendre pour le climat. Eh bien ce matin, on vous emmène au cœur de la forêt amazonienne, le poumon vert de la planète. Elle se trouve en grande partie au Brésil, là où le nouveau président Jair Bolsonaro veut développer l'agro-business. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Sébastien, vous vous trouvez alors là en plein cœur de la forêt amazonienne avec une équipe de scientifiques qui a installé un site assez étonnant. Qu'y a-t-il autour de vous et que font précisément ces scientifiques ?
Eh bien, pour faire simple, ils regardent comment la forêt respire, comment elle absorbe et produit du CO2, en quelle quantité elle relâche de l'oxygène. Et pour faire ça, ils ont bâti une tour métallique de 325 mètres de haut, une structure bardée de capteurs qui mesurent les concentrations des différents gaz, les gaz à effet de serre bien sûr, et tous ceux qui sont essentiels à la régulation thermique. C'est important pour étudier toutes les couches de l'atmosphère ici. Quand vous êtes sous la canopée, par exemple, il fait 23 degrés. Et au moment où vous percez ce plafond de feuilles, vous gagnez immédiatement 2 degrés. En haut de cette tour, c'est du vert à perte de vue à 360 degrés. Mais Jos Lavrich, spécialiste des gaz à effet de serre à l'Institut Max Planck, n'est pas là pour profiter du paysage. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la forêt amazonienne n'est pas un énorme mastodonte difficile à bousculer. Le moindre changement autour d'elle peut perturber son fonctionnement.
On voit que c'est un système qui est très susceptible. Par exemple, s'il y a une année avec beaucoup de sécheresse, s'il y a une année avec beaucoup de feu, le fait qu'il y a différentes particules qui sont transportées, qui après on provoque des précipitations plus ou moins violentes ou précoces ou tardives ou un autre endroit que d'habitude, on a des indices que ça change considérablement justement le budget de carbone de l'Amazonie.
Ça se ressent particulièrement quand le phénomène El Niño perturbe la forêt, tout l'équilibre oxygène-carbone est modifié.
Et Jean-Sébastien, d'autres facteurs bouleversent cet équilibre.
Oui, c'est pour ça que ces scientifiques vont jusqu'à scruter les champignons. Ils émettent des spores, de minuscules particules qui, si elles sont trop nombreuses, favorisent la formation des nuages et peuvent jouer sur l'abondance des pluies. Ils regardent aussi les effets de la déforestation. C'est l'une des principales menaces ici. Ça se fait en lisière de l'Amazonie, loin de là où je me trouve. Mais Stefan Wolf de l'Institut Planck voit que ça affecte le fonctionnement de la forêt.
L'endroit de la forêt où nous nous trouvons est parmi les plus préservés. Il y a peu d'incendies liés à l'activité humaine. Mais ce que nous constatons ici, loin des endroits où la déforestation est intense, c'est que les particules émises par les incendies qui ont lieu à 700 km de distance modifient la concentration de l'air. Ils ajoutent des gaz à effet de serre qui affecte la végétation et endommage le feuillage.
Alors là, on entend bien le point de vue scientifique, mais est-ce que les populations concernées, reculées d'Amazonie, ont conscience de l'enjeu, Jean-Sébastien ?
Eh bien, elles savent qu'elles vivent dans un environnement à protéger, mais pas forcément plus que ça. Pour ces habitants, les changements sont naturels, liés aux aléas, pas un bouleversement mondial. Ces scientifiques m'ont conduit jusqu'à une petite communauté qui vit à une heure de bateau le long de la rivière Watuma, c'est un affluent de l'Amazone. Et cette communauté de 150 personnes environ vit de l'agriculture, de la pêche uniquement. Il y a bien une petite école, mais quasiment aucun lien avec le monde extérieur. Pour eux donc, pas moyen de relier leur ressenti au réchauffement climatique. Mais écoutez ce que dit Raymonda, la doyenne.
On sent qu'il fait de plus en plus chaud. Le manioc est mort à cause de la chaleur. Nous essayons de limiter les feux et d'éteindre ceux que nous n'avons pas causés. Les pêcheurs en allument souvent sur les bords de la rivière et lorsqu'ils s'en vont, les flammes repartent.
Ils s'en rendent compte. La question maintenant, c'est de savoir ce que vont trouver les scientifiques de l'Institut Planck en collaboration avec leurs collègues brésiliens. Ils se refusent pour l'instant à émettre un quelconque avis sur les conséquences du réchauffement sur la forêt amazonienne. Leur projet est sur 30 ans. Ils ne sont là que depuis 2 ans. Trop court, disent-ils. Pas de commentaires sur la COP non plus. Ils ne veulent pas faire de politique. Mais lorsqu'ils entendent le programme du président brésilien Jair Bolsonaro sur l'ouverture de la forêt amazonienne à l'agrobusiness et à la déforestation, l'un d'eux est formel. Il ne faut absolument pas faire ça.
Voilà, reportage depuis la forêt amazonienne, poumon vert de la planète, un poumon plus que jamais menacé. Merci Jean-Sébastien Soldaigny, envoyé spécial en Amazonie aux côtés des équipes d'ATO, l'Observatoire de la Grande Tour de l'Amazone. Europe 1 va plus loin chaque jour. C'est à 7h20.
Europe 1, il est 7h24.
On va revenir en France avec Anis Mbida. On va parler de l'autonomie de nos téléphones. On doit les recharger une fois par jour, voire plus. Et c'est parfois un peu contraignant. Eh bien, Anis a peut-être une solution à vous proposer. Ne chargez votre smartphone qu'une fois par semaine. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anis Mbida, Nikos Aliagas.
Avec un peu d'espoir ce matin pour tous ceux qui se promènent avec leur chargeur. Vous savez, la batterie portable, c'est tellement fastidieux. Pour être sûr d'avoir suffisamment d'autonomie, on est là, on se balade avec des câbles de partout. Moi, j'en peux plus. Alors, on vient de faire une avancée majeure dans le secteur. Oui. Dites-nous tout, Anis, c'est important.
Nikos, qu'est-ce que vous diriez de recharger votre téléphone, non pas une fois par jour, mais une fois par semaine?
Je vous en prie, je signe tout de suite direct.
Bien, c'est ce que vient de mettre au point une Dream Team de chercheurs, une batterie aux ions fluorure qui offre jusqu'à 10 fois plus de capacité que les batteries lithium-ion actuelles. Donc ça intéresse tout le monde, les téléphones, les ordinateurs portables, mais aussi l'automobile. Ça leur permettrait enfin d'avoir la même autonomie que les voitures à essence.
Mais qu'est-ce que c'est que la batterie aux ions fluorure? C'est un truc de laboratoire? C'est le genre de truc qu'on ne verra pas avant 20 ans.
Eh bien non, figurez-vous, hein, parce que les batteries aux fluorures, comme vous dites, c'est une technologie assez ancienne, on en parle depuis les années 70. Le problème, c'est qu'elles ne fonctionnaient jusqu'à présent qu'à des températures supérieures à 150 degrés. Donc vous imaginez, pour tenir son téléphone, ce n'est pas pratique. Ah ouais. Et la prouesse des chercheurs, c'est d'avoir réussi justement à les faire fonctionner à température ambiante. Et ça, ça change tout. Mais vous avez raison, il y a quand même un monde entre ce qui sort des labos et ce qu'on va pouvoir acheter en magasin. Mais là, on a tendance à y croire parce que le directeur des recherches, ce n'est pas n'importe qui, c'est le prix Nobel de chimie 2005. Ah. Il y a de gros grosses entreprises derrière, la NASA et Honda. Donc retenez bien, les batteries ion fluorure, vous allez en réentendre parler.
Vous irez les demander comme ça. Vous avez des batteries ion fluorure? Anis Mbida, l'innovation chargée à bloc, c'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Accompagnement, soutien financier, avec les prix EDF Pulse, EDF met en lumière les startups qui inventent notre avenir électrique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans 3 minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabronikos.
À l'est, rien de nouveau, si ce n'est du froid ?
Non, mais à l'ouest, il y a du nouveau quand même. Ah. Si, à l'est, du froid, pas aujourd'hui, hein, Nikos, demain.
Il s'installe.
Demain, le froid va s'installer plutôt. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est une journée, ma foi, bon, une journée d'automne, traditionnelle, avec de la pluie ce matin, beaucoup moins de pluie dans la journée. Nous allons vers les éclaircies. Alors, la pluie en Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, elle a cessé. Nous allons maintenant avoir une amélioration sur la Normandie, le Nord, le Limousin, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Roussillon. Nous aurons dans ces régions des éclaircies en deuxième partie de journée, hein, pas tout de suite, tout à l'heure. Tout à l'heure aussi sur Paris, où la matinée s'annonce humide, mais ensuite, ça ira beaucoup mieux avec même un brin de soleil. Et des averses vont persister en Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Bourgogne, le centre, dans l'Auvergne, en région Rhône-Alpes. Lyon, ce serait, oui, cet après-midi, ça ira un petit peu mieux aussi. Sur le bassin méditerranéen, le vent s'est calmé, 60-80 km/h, c'est quand même pas mal, mais il y aura du soleil. Les températures aujourd'hui en petite baisse, 6 à Verdun, 7 à Belfort, 8 à Montbard.
Montbard.
Côte d'Or.
Oui, Hello. Côte d'Or.
9 degrés à Dijon et Lille, 10 à Paris et à Lyon, comme à Honfleur, 11 à Caen, 12 à Toulouse, 13 à Bordeaux et 18 degrés dans le comté niçois. Voilà.
Magnifique, merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure, dans quelques instants, dans quelques secondes, Céline Kallmann pour le journal de 7h30. Dans 15 minutes, je reçois Alain Minc, un conseiller du président de la République. Que peut annoncer Emmanuel Macron ce soir ? Réponse tout à l'heure. Céline Kallmann, le journal de 7h30, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Gilets jaunes, acte 4, comparution immédiate. Aujourd'hui et demain, le nombre d'audiences au parquet de Paris notamment va être très important. Samedi, dans toute la France, il y a eu près de 2000 arrestations, dont plus de la moitié dans la capitale. 500 procédures ont toutefois été classées sans suite. 202 personnes restent ce matin en garde à vue. Il est clair que c'est la stratégie de prévention qui a été appliquée pour éviter la casse. Mais pour l'avocat Maître Avi Bitton, il y a eu une dérive autoritaire de la part du gouvernement.
La famille que j'ai assistée en garde à vue, le père, la mère, le fils, ils venaient d'Alsace pour manifester, ils garent leur voiture à bonne distance des Champs-Élysées, et au bout de quelques pas, les gendarmes les plaquent contre le mur, contrôlent leur identité, les fouillent, ne trouvent rien sur eux. Et c'est à ce moment-là que les gendarmes leur disent « Ouvrez le coffre de votre voiture ». Qu'y a-t-il dans le coffre ? Pas d'armes, uniquement des casques de vélo en plastique. Or, mes clients avaient entendu à la radio que le port de casque était interdit et c'est pour ça qu'ils avaient laissé les casques dans la voiture. Mais pourtant, ils ont été placés en garde à vue et retenus toute la journée. Je pense que ce samedi 8 décembre, il y a eu une dérive autoritaire de la part du gouvernement.
Maître Avi Bitton, joint par Hélène Terzian.
Et une question, Céline, ce matin, que tout le monde se pose, l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h, peut-elle, va-t-elle changer la donne ?
Les gilets jaunes au rond-point vont-ils disparaître du jour au lendemain ? En tout cas, ils ont prévenu, ils ne se sont pas mobilisés depuis presque un mois pour, à l'arrivée, se contenter de miettes. Jean-Luc, 67 ans, à la retraite, vit avec 650 euros par mois. Ce qu'il demande, c'est plus d'argent, plus de pouvoir d'achat.
On ne parle pas de politique, mais on parle de la vie des uns et des autres et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On a mis en commun notre difficulté à vivre. Les gens qui sont censés nous représenter, c'est-à-dire les députés, les ministres et tout ça, ils parlent de rien du tout qui nous concerne. Ils parlent de l'ISF, ils parlent de la TVA flottante, ils parlent des choses que ça ne nous vient même pas au début de l'idée. Nous, ce qu'on veut, c'est de manger au quotidien, de mettre de l'essence au quotidien. C'est 200 euros ou 300 euros de plus sur ma petite retraite, sur le SMIC. Après, messieurs les politiques, vous faites ce que vous voulez pour trouver les sous. C'est votre problème.
Jean-Luc avec Frédéric Michel pour Europe 1. Hier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a affirmé qu'il n'y aura pas de coup de pouce supplémentaire au SMIC, sauf qu'un peu plus tard, Agnès Buzyn a lancé qu'il fallait que les travailleurs au revenu minimal sentent leur pouvoir d'achat augmenter. Avant de parler aux Français, Emmanuel Macron va tester un certain nombre d'hypothèses en recevant donc aujourd'hui les présidents de l'Assemblée, du Sénat, les élus locaux ou encore les partenaires sociaux.
Et vous pourrez suivre l'allocution du chef de l'État sur Europe 1 à 20h, suivi d'un décryptage édition spéciale jusqu'à 21h.
Il y a un secteur particulièrement impacté par cette crise des gilets jaunes. Celui du commerce. Bruno Le Maire a parlé hier de catastrophe pour notre économie. Samedi, énormément de magasins sont restés fermés. Moins 20 à moins 25% de chiffre d'affaires à quelques semaines de Noël. La Nationale 113 dans le Sud est régulièrement bloquée depuis 3 semaines. Résultat, plus d'€1 million perdus par les PME-TPE du secteur. Loïc Aparicio est le président de l'Union patronale pour le pays d'Arles dans les Bouches-du-Rhône.
Il y a quand même des entreprises qui vont demander à passer en activité partielle, c'est-à-dire le chômage partiel pour leurs équipes. Là, c'est des petits entrepreneurs
des petits commerçants qui vont pas se faire de salaire sur le mois de décembre et les mois à venir si ça continue comme ça pour pouvoir payer leurs employés. Il y a des pénuries même dans les magasins, les grandes surfaces, Arles, mais il y a des rayons qui sont pratiquement vides. On ne sait pas quand est-ce qu'on va approvisionner en essence, en alimentaire. C'est une catastrophe.
Propos recueillis par Nathalie Chevance.
Europe 1, il est 7h34.
C'est l'une des infos de la matinée. Carlos Ghosn, inculpé à Tokyo pour dissimulation de revenus.
Oui, 3 semaines après son arrestation au Japon, le patron de Renault va rester derrière les barreaux. Garde à vue prolongée. Nissan est également poursuivi en tant qu'entité morale. Asia Bibi doit-elle pouvoir se réfugier en France ? C'est la demande de son avocat. Cette pakistanaise chrétienne condamnée à mort pour blasphème a été finalement acquittée il y a un peu plus d'un mois. Elle a pu sortir de prison, mais ne peut quitter son pays. Écoutez son avocat Saïf Oulmalouk.
Asia Bibi vit aujourd'hui sous protection du gouvernement pakistanais. Elle ne peut pas sortir, elle se ferait tuer. Et je demande à votre gouvernement de lui délivrer un passeport, ainsi qu'à son mari et ses deux filles. Le gouvernement français a été très actif pour protester contre sa détention. Il doit maintenant devenir le premier à lui offrir sa citoyenneté pour qu'elle puisse immédiatement venir et vivre à Paris tranquillement.
L'avocat d'Asia Bibi au micro de Sébastien Krebs.
Cinéma maintenant avec Gilles Lellouche, le comédien et réalisateur qui ne revient toujours pas du succès de son film.
Oui, la barre des 4 millions de spectateurs a été franchie pour Le Grand Bain. Et un conseil, n'ayez pas peur de sauter dans ce Grand Bain. Un film très touchant qui fait du bien avec un superbe casting. Mais le réalisateur prévient, il n'y aura pas de suite.
Très honnêtement, je n'en reviens pas. Parce que c'est exceptionnel et que voilà, c'est joli et que c'est beau et que c'est joyeux. Et que le film a su trouver le cœur des gens et... Il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureux que ça. Donc c'est une espèce d'alchimie qui est très compliquée à comprendre, à cerner, à expliquer surtout. Donc voilà, je me suis sur une sorte de petit nuage et j'aimerais bien qu'il dure 100 ans.
Et alors forcément, on pense à une suite ?
Ah non, 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 je ne ferai pas de suite. Non, non, je ne me vois pas leur faire faire... je vais faire quoi ? Le Grand Bain fait du ski ? Non, non. Maintenant, j'ai envie de me taire, de m'éloigner, de prendre du temps et de réfléchir. Et voilà.
Gilles Lellouche avec Mathieu Charrier.
Il y aura une suite, mais ne les écoutez pas. Les...
Le Grand Bain fait du ski, c'est pas mal.
Ils aiment se faire désirer. C'était le journal de Céline Kallmann.
Europe 1. Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est simple, hein, vous nous appelez au 3921, le standard d'Europe 1 vous attend. Sur les réseaux sociaux, ça marche également très bien avec le hashtag Europe 1. Il est 7h36.
7h-9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Un discours, plutôt une allocution, une intervention du président de la République très très commentée, très attendue alors qu'il ne s'est toujours pas exprimé. Jean-Michel Apathy, qu'est-ce qu'on doit attendre d'Emmanuel Macron ce soir ?
Tout. Ce soir, après son intervention, c'est la paix ou la guerre. Nous sommes devant ce que l'on pourrait appeler les vertiges de l'histoire. Alors on ne sait pas ce que va dire Emmanuel Macron, les informations sont très parcellaires. On ne sait pas quel mot il va mettre pour tenter de dissiper le sentiment de mépris que son action a installé depuis 18 mois. On ne sait pas ce qu'il va concéder ou pas aux Gilets jaunes, par exemple, en termes de pouvoir d'achat. On va attendre 20 heures. Et ce matin, on en est réduit à imaginer. Imaginons que le président de la République, lors de son allocution, soit clair, argumenté, précis, qu'il dégonfle le mouvement, que la contestation s'arrête. Après tout, ça n'est pas impossible. Bien sûr, les traces qui resteront seront très importantes et marqueront la fin du quinquennat. Mais enfin, il est une éventualité où la vie reprenne un cours un peu plus normal. Et on dira, puisqu'on disait qu'elle était menacée, que la République a été sauvée. Et si ça se trouve, ce soir, si ça se trouve, on criera au génie. Ou alors on peut imaginer le contraire. Un Emmanuel Macron pas très bon dans la forme, un peu flou sur le fond, ce sera quoi sa consultation pendant 3 mois, on n'a pas très bien compris, et il ne satisfera pas les revendications des Gilets jaunes. Et alors là, on peut s'attendre au pire, parce qu'il ne faut pas se faire des illusions sur la journée de samedi que nous avons vécue. On a parlé de retour au calme, c'est très relatif, parlez-en aux Bordelais. Bordeaux un peu dévasté. À Paris, il y a eu plus de commerces dévastés à Paris samedi que samedi dernier. C'est marrant la communication, parce que ça, on ne le voit pas du tout. Comment est-on arrivé à ce calme relatif ? Par une mobilisation exceptionnelle, sans précédent des forces de l'ordre. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est un effort terrible pour la nation. On a été aux franges de l'état de droit, avec des interpellations dont certaines ont été très légères. Là, c'est l'état de droit qui a vacillé samedi. C'est quand même très grave ce qui se passe. Si Emmanuel Macron ne satisfait pas les revendications des Gilets jaunes, qui sont exorbitantes et contradictoires, donc c'est pas pas facile à satisfaire, on peut craindre le pire, d'autant que les souffleurs de braise sont toujours là. Vous savez, à force de dire que la colère est légitime, eh bien la violence aussi est légitime, parce qu'il n'y a pas de colère pacifique. Donc, ce soir, Emmanuel Macron doit prononcer l'allocution de sa vie. Il tient entre ses mains le destin de la nation.
Il est le Deus ex machina, celui qui peut libérer tout le monde, en fait.
Pourquoi oui,
résoudre le problème.
Il l'est à cause, pas grâce, mais à cause de son arrogance, de ses maladresses et de son manque de clairvoyance. Ben, je vais vous dire, il y a des situations qui sont plus encourageantes que celles que nous allons vivre ce soir.
Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40 sur Europe 1. À présent, c'est vous qui le dites. Vous me laissez vos messages au 3921 quotidiennement. Et l'une des revendications des Gilets jaunes, c'est ce fameux coup de pouce au SMIC. Écoutez la réaction de Ludovic. C'est un patron d'une TPE, très petite entreprise. Il est au Conquet, dans le Finistère. Ludovic.
Oui, bonjour. Il faudrait peut-être faire quelque chose ou augmenter le SMIC. Je veux bien, mais moi, je peux pas. J'ai une petite structure avec moi, mon épouse, qui est enceinte et qui est encore au boulot. Moi, quand j'ai un salaire, déjà, c'est super. Il faut peut-être que l'État fasse quelque chose aussi. Donc, revendication, je suis d'accord, quelques trucs, mais le SMIC, les machins, les ceci, les cela. Peut-être aller bosser et bouger le cul.
Il y a parfois un décalage entre ce que disent les journalistes, les spécialistes, les technocrates, les économistes, et puis la réalité. Dans nos reportages, on l'a écouté tout à l'heure dans le 7h30 de Céline Kallmann, quelqu'un disait « Non, mais nous, on veut juste, on pense à très court terme. » C'est-à-dire qu'on on ne comprend pas, on n'entend pas les élaborations de plusieurs mois. Vous êtes d'accord avec ça ?
On peut comprendre que des gens le disent tout de suite. Hélas, on ne le dit pas assez, un pays, ça ne se gère pas comme ça.
La revalorisation du SMIC a été écartée hier par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Merci Jean-Michel Apathy.
C'est vous qui le dites, vous aussi réagissez à l'actualité. Laissez votre message à Nico Saliagas au 3921.
Europe 1.
Il est 7h42, Nico Saliagas, à suivre.
Dans un instant, je reçois un homme de l'ombre, un homme qui connaît bien les méandres du pouvoir, conseiller au sommet de l'État. Il a côtoyé plusieurs présidents. Aujourd'hui, il est proche d'Emmanuel Macron. Que peut dire le président de la République pour calmer les tensions, je pose la question à Alain Minc dans un instant.
Il est 7h44, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Carlos Ghosn inculpé à Tokyo pour dissimulation de revenus. 3 semaines après son arrestation au Japon, le patron de Renault va rester derrière les barreaux. La crise des Gilets jaunes, journée décisive pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État va passer la journée à dialoguer avec les partenaires sociaux, les associations d'élus. Il s'adressera ensuite aux Français depuis le palais de l'Élysée. Allocution à suivre sur Europe 1, suivie d'un décryptage jusqu'à 21h. Le sort des salariés de l'usine Ford à Blanquefort, scellé aujourd'hui. La direction du groupe américain doit dire s'il est vendu au seul repreneur intéressé ou s'il va tout simplement fermer.
Europe 1.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'économiste Alain Minc.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Le président de la République s'exprimera ce soir à 20h. Peut-il changer la donne ou c'est trop tard ?
Si vous me permettez de m'emparer de votre émission pour ne pas répondre tout de suite à votre question et vous inciter, comme inciter chacun, à prendre un peu de distance. Mmh. On est en train de mimer la Révolution française. On entend un élu du peuple.
Qui ça on, pardonnez-moi ?
La France. Mmh. On entend un élu du peuple, M. Ruffin, dire que le président de la République va finir comme John Kennedy. Ça s'appelle un quasi-appel au meurtre.
Le député de la France insoumise.
Oui, personne ne réagit. Ni les juges, ni les éditorialistes, ni les autres hommes politiques. On pend en effigie le président de la République sur les ronds-points. On s'en prend à sa femme comme si c'était Marie-Antoinette. Il y a là quelque chose de fascinant. Moi qui ai vécu mai 68, parce que malheureusement je suis un peu plus vieux que vous, qu'est-ce qu'on criait ? Moi j'ai manifesté en criant « Bye bye De Gaulle » ou « De Gaulle à Colombey ». Bon, c'était quand même pas bouleversant d'agressivité. Et donc je pense qu'après que cette affaire sera terminé, il nous appartient de réfléchir sur les pulsions de mort qui agitent la société française.
Mais comment l'expliquez-vous ? C'est une orchestration
non.
Ou c'est quelque chose
non,
qui, est, pense... qui est impulsif et qui,
non, non, j'ai
qui
dit pulsion. Oui. C'est pas un complot qui rend les Français à ce degré d'agressivité. Je pense qu'il y a une espèce de pulsion de mort, d'instinct qu'on avait oublié dans ce pays, qui est en train de se réveiller et sur lequel il faudra réfléchir tranquillement.
Comment
pardon d'avoir détourné votre sujet.
Peut-être que nous pourrions aller un peu plus loin dans cette réflexion. Pourquoi le président Macron cristallise-t-il autant de haine d'un côté de certains politiques et de l'autre côté de la France, de la périphérie, entre guillemets ?
Alors, je crois en effet que vous êtes posé une vraie question. Qu'Emmanuel Macron soit impopulaire, on peut très bien imaginer les raisons spécifiques. L'impopularité et la haine, ce sont deux choses différentes et je trouve ça très interpellant. Alors, je ne veux pas faire le psychanalyste amateur du café du commerce, mais je me demande si, au fond, quand ça tangue, les Français ont besoin d'une figure paternelle. Or, Emmanuel Macron, par son âge, n'est pas une figure paternelle, c'est une figure fraternelle. Et je crois qu'il y a là un manque, qu'il avait d'ailleurs théorisé en son temps, quand tout allait bien, sur la figure manquante, entre guillemets, du roi. Mais enfin, on fera la psychanalyse quand tout ça sera terminé.
Hein. Alain Minc, alors, est-ce qu'il peut changer la donne dans son allocution ce soir, le président, ou est-ce que c'est trop tard ?
Non, mais à l'évidence, il va mettre des mesures sur la table qui répondront au moins en partie aux revendications d'une part des Gilets jaunes. Donc, je pense ou j'espère que les plus modérés, les plus raisonnables des Gilets jaunes se sépareront du reste du mouvement. Est-ce que ça suffira à calmer l'espèce de délire d'agressivité auquel on assiste tous les samedis ? Je ne sais pas. Moi, d'ailleurs, je tire une conclusion de ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'un jour, les pillards se rendront compte que pour eux, les meilleures journées ne sont pas les journées de manif parce qu'il y a quand même beaucoup de flics.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait dire pour nous, pour nos auditeurs, que le président pourrait rétablir l'ISF
Je n'y crois absolument pas. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a deux populations pour lesquelles il est nécessaire de faire un geste. Je vous dis ce que je pense. Je pense que ça ne sera pas très éloigné de la réalité, mais le dispositif, en tout cas, n'est pas, je crois, complètement arrêté. Je pense que la désindexation des retraites a été un geste extrêmement lourd et qu'il faut revenir dessus au moins partiellement. Je pense d'autre part qu'il y a un problème qui a été au début de cette affaire, où il y a une inégalité fondamentale. En région parisienne, les entreprises payent le versement transport et la moitié de la carte Navigo pour beaucoup d'entre elles pour acheminer leurs salariés au bureau. En province, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de versement transport, il n'y a pas de carte Navigo. Donc, il était essentiel de mettre en place un système d'aide individuelle au transport. Ça va être fait, et je pense que si ça avait été fait de longue date, on n'aurait pas eu le point de départ. Comme toujours, il y a une espèce d'engrenage, entre guillemets, révolutionnaire, avec beaucoup de guillemets, que chaque revendication s'ajoute aux autres. Troisièmement, je crois que les entreprises, en tout cas les grandes, ont une aisance financière telle qu'elles peuvent faire un geste de fin d'année et un geste assez significatif. Il ne faut pas se raconter aujourd'hui d'histoire. Il faut mettre de l'argent sur la table. D'où peut venir cet argent ? Pour une part, des entreprises, en tout cas les grandes et les plus aisées, qui ont bénéficié d'un contexte de décision extrêmement favorable depuis François Hollande. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron.
Donc, on va chercher chez le patron, en fait.
Les entreprises.
Voilà, les entreprises. Mais l'État, celles qui peuvent être. L'État peut-il donner
un petit
coup de pouce au SMIC ?
Non, mais je pense que ça serait une erreur, parce que le coup SMIC, c'est indifférencié, ça ne répond pas au problème dont je vous parlais du transport, et ça fabrique, on le sait, à terme du chômage.
La taxe d'habitation.
Moi, depuis le départ, je pensais qu'il ne fallait pas toucher à la taxe d'habitation, tant qu'ils y sont, en effet, qu'ils terminent. Mais alors, vous allez me dire, il n'y a pas l'argent pour faire ça, il y a les 3% de Maastricht. En réalité, Bruxelles fermera les yeux sur un débordement temporaire et nous aidera d'autant plus qu'on a compté cette année 2 fois 20 milliards, puisqu'il y a le CICE et le basculement sur les charges sociales.
Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ici,
vous savez, Georges Pompidou, en 68, il y est allé encore plus largement. Quand il y a le feu, on utilise l'eau, et l'eau, ça s'appelle l'argent.
Oui, c'est dingue qu'on fasse référence à mai 68. On a eu Édouard Balladur vendredi, effectivement. On a l'impression qu'on n'a pas tout résolu aussi avec mai 68. Mais est-ce que
c'était un mouvement de jeunes, et là, c'est en partie un mouvement de vieux. C'est une immense différence.
Les uns voulaient changer le monde, les autres, ceux d'aujourd'hui, veulent garder leur...
Et veulent avoir des fins de mois moins difficiles.
Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en France est symptomatique d'une crise européenne plus profonde ? Est-ce que l'avenir de l'Europe se joue chaque samedi dans les rues de nos villes ?
Écoutez, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que chaque pays, grand pays européen, connaît une crise conforme à son ADN. Les Anglais connaissent une crise extrême de la démocratie parlementaire. Nous connaissons une crise extrême de la monarchie absolue à la française telle qu'elle existe. Les Italiens connaissent une crise extrême de leurs caractéristiques historiques, c'est-à-dire le bordel. Donc, il est clair qu'il y a un fond qui fait qu'aujourd'hui, nos modèles sont interpellés. Pourquoi nos modèles sont interpellés ? Parce qu'on a tiré beaucoup sur la corde. Je crois, moi, depuis longtemps, ça fait un an que je dis qu'il y aura une insurrection. Je ne pensais pas du tout
celle-là.
Vous l'avez
dit au mois de juillet dans
la presse. Mais je pensais qu'elle serait dans les banlieues. Donc là-dessus, évidemment, je n'étais pas devin. Mais le modèle capitaliste tel qu'il a fonctionné a atteint sa limite. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, non. Ça veut dire qu'il faut repartir dans un mouvement beaucoup plus équilibré de redistribution.
Dernière question à la Minc. Qu'avez-vous dit la dernière fois que vous avez parlé au président de la République ?
Ça, je ne vous le dirai pas. Ça, c'est une règle absolue. Désolé. Entre vieux bohémiens, on ne se raconte pas la bonne aventure.
Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin à la Minc.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le avec le hashtag Europe 1.
Europe 1,
il est 7h53.
À suivre le Zoom Echo, nouvelle révélation dans l'affaire Carlos Ghosn. On en parle avec Axel de Tarlet dans un instant. Et puis cette information que vous révèle Europe 1 ce matin, la moitié des radars automatiques du pays sont hors service, conséquence de la crise des gilets jaunes. On vous dit tout dans le journal de 8h avec David Doucan. A tout de suite.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h56, c'est l'heure du Zoom Echo. Nico Saliagas avec Axel de Tarlet.
Carlos Ghosn inculpé ce matin au Japon pour dissimulation de revenus. Et alors qu'on vient d'apprendre de nouvelles révélations sur le contexte de l'arrestation du PDG de Renault-Nissan il y a 3 semaines, Axel de Tarlet.
Eh bien oui, on vient de l'apprendre selon le Wall Street Journal. Juste avant de se faire arrêter, donc le 19 novembre, Carlos Ghosn s'apprêtait à débarquer le patron de Nissan qu'il avait lui-même nommé, mais dont il était déçu. Donc Hiroto Saikawa devait être débarqué lors d'un conseil d'administration à Tokyo le 22 novembre. Bah, finalement, on connaît l'histoire. Hein. Carlos Ghosn se fait arrêter le 19 et lors de ce conseil du 22 novembre, bah, c'est lui qui sera débarqué et triomphant. Hiroto Saikawa prend sa place de PDG et ne se prive pas de critiquer son ex-mentor, estimant qu'il avait trop de pouvoir.
Donc c'est un putsch interne en fait. On peut le dire, on peut l'affirmer, on peut se poser la question, on a voulu le faire tomber.
Eh bien écoutez, même au Japon, certains se posent la question et s'étonnent de la sévérité de la procédure. Parce que dans cette affaire-là, il est inculpé, mais il n'est pas inculpé pour fraude fiscale, il n'est pas inculpé pour abus de biens sociaux, il est inculpé, enfin pas simplement, mais parce qu'on l'accuse d'avoir sous-estimé des revenus futurs concernant sa retraite. Il se serait mis ainsi en infraction par rapport à une nouvelle loi de 2010. D'ailleurs, Carlos Ghosn conteste avoir sous-estimé ses revenus futurs. Donc oui, on se pose la question, la justice n'est-elle pas quand même un petit peu instrumentalisée ? Et figurez-vous que c'est la thèse de l'économiste Jean-Marc Daniel qui parle d'une nouvelle forme de protectionnisme judiciaire. Désormais, on utiliserait la justice pour torpiller ses concurrents. Alors que c'est vrai, on se souvient de cette giga-amende de 9 milliards de dollars contre le français BNP Paribas. Mais regardez aujourd'hui, Total a tellement peur de la justice américaine que Total a préféré quitter l'Iran. La directrice financière de Huawei, vous savez, ce géant chinois...
On en parle depuis plusieurs jours.
Elle vient de se faire arrêter au Canada et au Japon pour torpiller Renault. Bah, on fait arrêter son patron, Carlos Ghosn. Alors bien sûr, la justice reste indépendante, attention. Mais il y a quand même un climat qui prend la forme d'un protectionnisme judiciaire. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus de droits de douane, mais on met les gens en prison.
Très bonne analyse d'Axel de Tarlet ce matin sur Europe.
7h58, on passe à la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas, Nikos.
On va parler d'un homme profondément honnête, Jean-Philippe Ballas, c'est votre rubrique. Vous savez quoi ? De qui s'agit-il ?
Alors, le jour se lève dans la banlieue de Seattle et notre personnage s'appelle Kevin. Il a faim, 32 ans, SDF. Il a ses habitudes à la banque alimentaire du quartier, là-bas on le connaît bien. C'est un chic type ce Kevin, il a eu simplement moins de chance que les autres. Mais ce matin-là, la chance va tourner. Kevin arrive bien avant l'ouverture et dans la rue, il remarque un sac en papier. Il le ramasse, le sac est rempli de billets, beaucoup de billets. Il y a 17 000 $, les amis. Kevin s'assoit, un peu groggy, il réfléchit longuement. Une telle somme, quand vous n'avez pas de toit sur la tête, effectivement, il y a de quoi gamberger. Puis finalement, le SDF décide que cet argent n'est pas à lui. Et quand la banque alimentaire ouvre ses portes, il pose le sac à l'entrée. Tenez, c'est pour vous. Et il disparaît. Les employés vont mettre du temps avant de comprendre et d'appeler la police. Une enquête est ouverte. Impossible de savoir d'où vient cet argent. Mais personne ne vient non plus le réclamer. Au bout de 90 jours, c'est la loi. Les autorités rendent le pactole à la banque alimentaire. Il y a quelques jours, le quartier a organisé une cérémonie en l'honneur de Kevin, le sans domicile fixe devenu bon samaritain. La banque alimentaire va pouvoir investir. Elle promet que son donateur ne manquera plus jamais de rien. Kevin, lui, dit simplement qu'il est fier, qu'il se sent bien. Et vous savez quoi ? Ça n'a pas de prix.
Vos petites histoires n'ont pas de prix, Jean-Philippe Ballas. Si en plus vous mettez du Pink Floyd, là je dis merci, chef.
C'est lundi.
La petite histoire qui n'a pas de prix tous les jours avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol-Nikos.
Quel est le prix du ciel ce matin, mon cher ?
Ah, c'est pas mal, ça s'arrange bien, ça s'arrange bien partout.
Un peu de soleil ou pas?
Oui. Il y a du soleil qui arrive sur les côtes atlantiques, du soleil sur les côtes de la Manche, mais cet après-midi essentiellement. Même sur Paris, nous aurons quelques rayons de soleil. Sur la Normandie, donc le nord, tout le sud-ouest. Voilà où l'amélioration se dessine, avec un temps beaucoup plus calme, ouf, et avec des éclaircies qui vraiment gagnent du terrain. Sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, l'Auvergne et Rhône-Alpes, nous conserverons encore des averses. Franchement, ça ira un petit peu mieux durant la nuit prochaine. Et près de la Méditerranée, du vent. Mais avec un ciel clair, les températures baissent de 1 degré, entre 7 et 13 degrés.
Merci Laurent.
Et excellente journée à l'écoute d'Europe 1.
Le journal de 8h, tout de suite.
Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour David Decan.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin, David.
Emmanuel Macron va-t-il réussir à se réconcilier avec les Français? Le président s'adressera à la nation ce soir à 20h. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat sont attendues. C'est aussi une équation personnelle qu'il doit résoudre. Les protestataires expriment bien souvent un rejet d'Emmanuel Macron lui-même. Le chef de l'État va donc devoir trouver les mots justes. Nos experts sont avec nous dans ce studio. Anne-Laure Jumet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Journée décisive pour le pays. Page complète dans un instant. Et puis dans ce journal, les informations d'Europe 1. Conséquences du mouvement des Gilets jaunes. La moitié des radars automatiques de France hors service.
Europe 1.
Le chef de l'État s'adressera donc solennellement à la nation ce soir à 20h, allocution depuis le palais de l'Élysée sur toutes les chaînes ou presque. La crise des Gilets jaunes fait rage depuis maintenant 3 semaines. Le sujet, c'est bien le portefeuille des Français et pas autre chose. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron s'apprête donc, Anne-Laure, à annoncer des mesures en faveur du pouvoir d'achat.
Oui, avec un mot d'ordre réaffirmé, il faut que le travail paye et ça passe par une accélération des mesures déjà programmées. La suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires, elle est prévue en septembre, elle pourrait intervenir dès le mois prochain. Il est aussi question de défiscaliser ces heures sup. Pour ce qui est du SMIC, il n'y aura pas de coup de pouce, mais pour augmenter les bas salaires, le gouvernement pourrait accélérer le calendrier de l'augmentation de la prime d'activité. La hausse du minimum vieillesse pourrait aussi être réalisée plus vite que prévu. Et puis côté fiscalité, un grand dossier est sur la table, la taxe d'habitation. Sa suppression totale pourrait intervenir dès l'automne prochain avec un an d'avance. On parle aussi d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Voilà les pistes pour répondre à l'urgence sociale. Mais l'exécutif veut aussi travailler sur le long terme, avec l'idée notamment de remettre à plat la fiscalité pour l'adapter aux réalités locales.
Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Tout ce que vous venez de dire, Emmanuel Macron va le tester, le soumettre, peut-être l'amender, car il reçoit beaucoup de monde aujourd'hui à l'Élysée. Syndicats, patronats, associations d'élus, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat seront au palais aujourd'hui. Objectif, essayer d'associer ces corps intermédiaires, comme l'on dit, aux solutions que le président s'apprête à présenter.
Se pose un problème que parmi les gilets jaunes, certains disent ne plus rien attendre de la parole du président de la République.
Oui, écoutez par exemple Gabriel qui tient un barrage dans le sud de la France au micro de Nathalie Chevance.
On ne va pas l'écouter, c'est trop tard, oui. La cassure a eu lieu et les gens qui sont ici ont besoin de fraternité, ont besoin de convivialité, ont besoin d'amour. Tout ce qui s'est perdu, c'est pas une connerie, c'est tout un système, ça vient pas de Macron. C'était en ébullition et puis ça a explosé.
Alors bien sûr, tout le monde n'est pas de cet avis, mais enfin on l'entend quand même, ce son de cloche sur les ronds-points. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Le voilà le défi pour Emmanuel Macron, Mickaël, renouer le dialogue.
Et oui, l'ordre a été maintenu, mais la colère aussi. Et au-delà des revendications disparates, il y a un point de ralliement donc, de ces gilets jaunes, c'est la convergence de leur lutte contre le président de la République en personne. Et c'est le point le plus délicat à traiter. Le style, la méthode, certains propos ont exaspéré les Français, Emmanuel Macron le sait. Et il le perçoit. Pour réparer ce lien avec les Français, un projet est à l'étude, selon une confidence présidentielle, un tour de France des maires. Mais pour l'heure, il s'agit d'être entendu dès ce soir. D'où cette intervention qui est intitulée en général allocution aux Français, qui cette fois est appelée allocution à la nation. Le président s'adressera à la nation et non pas uniquement aux Français pour bien signifier la gravité du moment et l'ampleur du défi. Le président Macron n'aura pas droit à l'erreur.
Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1.
Et c'est le troisième lundi de gueule de bois en 3 semaines. Même si le maintien de l'ordre a été plus efficace, on a quand même déploré de nombreuses dégradations et des violences un peu partout en France.
Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vient d'annoncer son estimation. Pour lui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une perte de 0,1 point de croissance sur l'année 2018.
parce qu'il y a, oui, c'est beaucoup, parce qu'il y a les dégâts eux-mêmes occasionnés par les manifestants violents, et puis il y a le manque à gagner. Des magasins qui baissent le rideau chaque samedi juste avant Noël, pour la Fédération du commerce, c'est une perte de 25% par rapport au chiffre d'affaires habituel. Et pour les consommateurs, c'est la galère avec Paris ville morte le samedi. L'affluence de Noël se reporte essentiellement sur le dimanche. Reportage signé Justin Morin.
À deux pas des grands magasins, la vitrine de la boutique de Christophe est encore recouverte d'une protection noire. Mais une petite affiche vient rappeler que le magasin est bien ouvert. À l'intérieur, le commerçant essaie de positiver.
Une ouverture du dimanche représente 10% de ce qu'on aurait dû faire le samedi, donc des pertes sèches. Maintenant, tout est mis en œuvre pour justement essayer de booster le chiffre d'affaires, les intéressements des vendeurs, des vendeuses et de garder en tout cas un bon dynamisme.
Même combat dans les grands magasins voisins, pas de chiffre officiel pour ce dimanche, mais on nous parle d'une bonne fréquentation. Sylvie, un peu en colère, a les bras remplis de sacs pour ses courses de Noël.
Pas fini, mais faut bien prévoir parce qu'on se doute que samedi prochain, ça va recommencer.
Esther et David préfèrent le prendre avec le sourire.
On essaye de se rattraper.
Bah oui, vraiment.
Vous êtes en retard dans les cadeaux ?
Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait, on n'a rien acheté. De tous les week-ends depuis 3 semaines, ils sont jaunes, des yellow days. On ne pouvait rien faire, donc on n'a que le dimanche pour se rattraper. Donc voilà, on est venu un peu tard, je crois, parce que vraiment, ça a été pris d'assaut. Mais on va essayer de se rattraper quand même un petit peu.
Le couple se rassure, il reste du temps avant Noël, mais il ne serait pas contre une journée de mobilisation plus calme samedi prochain.
Reportage signé Justin Morin.
Et c'est une contestation, David, sur plusieurs fronts à laquelle le gouvernement fait face depuis 3 semaines.
Oui, d'ailleurs, la journée sera aussi marquée par une mobilisation des agriculteurs. Le Monde Paysan organise des actions dans toute la France. Il dénonce la pression fiscale et des rémunérations insuffisantes.
Et à 8h15, Audrey Caspomara recevra Florence Parly, la ministre des Armées.
Europe 1.
À suivre dans le journal La Colère, c'est aussi de nombreuses dégradations en France sur les radars automatiques. Vous serez surpris par l'ampleur du phénomène. Information Europe 1 dans un instant.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. On le sait, depuis le début de la crise, les radars automatiques sont pris pour cible un peu partout dans le pays.
Oui, c'est une information Europe 1. À l'heure où l'on se parle, 50% des radars ont été détruits ou mis hors service. Révélation signée Guillaume Bier.
Il n'y a jamais eu autant d'attaques contre les radars automatiques. Selon nos informations, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre, au moins 250 appareils ont été détruits, incendiés la plupart du temps. On compte aussi plus de 1500 actes de vandalisme, cabines peinturlurées ou recouvertes de plastique. Résultat, la moitié des radars du pays est hors service. Dans certains départements ruraux, ça touche même la quasi-totalité des appareils, du jamais vu. Un sujet tabou dans les préfectures et à la sécurité routière où l'on refuse de communiquer par peur, je cite, d'un effet contagion. Pourtant, le phénomène est bien là, amorcé l'été dernier avec le passage à 80 km/h et accéléré avec les gilets jaunes. La facture se chiffre en millions d'euros, sans compter le manque à gagner avec le nombre de flashs en chute libre. Pour les auteurs des destructions, les sanctions encourues sont lourdes, jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende s'ils ont agi à plusieurs. Mais les arrestations sont rares. À Toulouse, il y a quelques jours, 3 gilets jaunes qui avaient incendié des radars ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, une centaine d'heures de travail d'intérêt général et surtout, ils devront rembourser les dégâts.
Information signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe. Carlos Ghosn a été inculpé à Tokyo ce matin après 3 semaines de garde à vue. Le dirigeant de 64 ans est maintenu en prison. Les autorités lui reprochent d'avoir omis de déclarer 38 millions d'euros de revenus entre 2010 et 2015. Et selon les médias japonais, les magistrats le soupçonnent aussi d'avoir minoré ses salaires. Mais entre 2015 et 2018, le groupe Nissan, en tant que personne morale, a lui aussi été inculpé.
Le suspense s'arrête demain au Royaume-Uni. Les députés britanniques voteront pour ou contre l'accord de Brexit négocié par Theresa May.
Oui, et on voit mal à cette heure comment la Première ministre pourrait inverser la tendance. Elle fait face à une rébellion sans précédent dans sa majorité. Un rejet de l'accord signifierait pour elle la nécessité de quitter le pouvoir. Correspondance à Londres, Anaïs Cordoba.
Pour Theresa May, c'est la chronique d'une défaite annoncée. Sa fragile majorité a volé en éclats. Pro et anti-Brexit confondus, ils sont désormais une centaine de députés conservateurs opposés à son accord. Parmi eux, Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères et chef de file des Brexiteurs. Hier, il est apparu à la télé anglaise avec une nouvelle coupe de cheveux, signe pour certains observateurs qu'il est déjà candidat au 10 Downing Street.
Après avoir lutté, après avoir fait campagne, ça me désole de constater que nous allons souscrire un avenir dans lequel l'Union européenne va nous imposer ses lois dans beaucoup de domaines. Et nous n'aurons pas notre mot à dire à Bruxelles. C'est une absurdité. Nous ne pouvons pas continuer dans cette direction.
Sur une chaîne concurrente, une autre ministre démissionnaire, aujourd'hui dans le camp des frondeurs, enjoint Theresa May à renégocier.
La première ministre doit retourner à Bruxelles immédiatement et ramener un meilleur accord. Nous devons reprendre le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre argent, de notre souveraineté.
Theresa May, elle, s'est contentée de lancer cet avertissement aux rebelles. Un rejet de mon accord pourrait provoquer une annulation du Brexit, ainsi que l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du pays. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Apportons immédiatement, Nikos, une précision. L'agence France Presse corrige ce qu'elle avait dit précédemment concernant la croissance. Bruno Le Maire, lorsqu'il disait que les Gilets jaunes allaient faire perdre 0,1 point de croissance, ne parlait
pas, toute l'année.
Non pas de toute l'année 2018, mais uniquement du quatrième trimestre 2018. Et enfin, l'Allemagne connaît aussi un mouvement social, et c'est très rare dans le pays. L'ensemble des grandes lignes sont interrompues ce matin, et les trains régionaux très perturbés en raison d'une grève des cheminots pour peser sur les négociations salariales.
Le journal de 8 heures était présenté par David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 8h12, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Il y a des petites phrases dans l'air en ce moment entre les responsables, les chefs d'État à propos des Gilets jaunes. Et la réponse de Paris à Donald Trump sur les Gilets jaunes, c'est en substance « occupez-vous de vos affaires ».
Oui, bonjour Nikos. Jean-Yves Le Drian a dit « précisément, nous ne prenons pas parti dans les débats américains, alors laissez-nous vivre notre vie de nation ». Dans la bouche d'un ministre des Affaires étrangères, ça équivaut à fermer-la.
Shut up.
Les Français détestent recevoir des leçons de l'étranger et pour la haine de soi, ils n'ont besoin de personne. Nul ne reprochera donc à Jean-Yves Le Drian son coup de menton. Ça ne veut pas dire qu'il piaffe de refaire de la politique intérieure. S'il a des ambitions, le Breton est bien trop prudent pour les trahir. Évidemment, Donald Trump n'écoute pas le ministre français des Affaires étrangères. Il écoute à peine son propre secrétaire d'État. Mais le week-end, il se détend, il balance des tweets comme des pots de banane. Et samedi, il a donc répété « L'accord de Paris ne fonctionne pas si bien à Paris ». Quand l'Élysée joue la dramatisation, la Maison-Blanche préfère la dérision. Selon Donald Trump, la crise prouve que les citoyens du Nord refusent de payer pour les pays du Sud qui polluent. Évidemment, c'est de l'amalgame. Hein.
Ouais, mais il ne faut pas être stupide pour voir qu'il cherche à humilier Emmanuel Macron. Clairement.
C'est au bras de Donald Trump et d'ailleurs de Vladimir Poutine que Emmanuel Macron a fait ses débuts sur la scène mondiale. Et les deux, aujourd'hui, lui donnent des coups de pied. Il y a seulement 6 mois, l'Américain recevait le président à Washington avec tout le faste d'une visite d'État, qui plus est la première de son mandat. Et devant le Congrès, Emmanuel Macron avait carrément évoqué Benjamin Franklin et Voltaire s'embrassant et tombant dans les bras l'un de l'autre pour expliquer ses démonstrations d'amitié avec Donald Trump. Et pourtant, il y a 6 mois, Donald Trump avait déjà torpillé l'accord avec l'Iran et celui de Paris sur le climat, les budgets de l'UNESCO et de l'UNRWA, le statut de Jérusalem, etc. Peut-être que les gilets jaunes plaisent tant à Donald Trump parce que c'est la couleur des cocus, la couleur de la trahison. Il n'y a pas d'amis en politique étrangère, il y a des moments d'amitié.
Vincent Hervouet, le point de vue international, c'est tous les jours sur Europe 1.
Europe 1.
Les belles matinées sur Europe 1, il est 8h14.
Audrey Crespo-Mara, très militaire ce matin, je vous trouve.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Très jolie croisée.
Merci bien.
Vous auriez pu être dans la marine ?
Presque. L'armée n'a pas eu besoin d'intervenir pour que l'ordre soit à peu près maintenu samedi en France. Mais si la situation continue à être aussi dangereuse, le président aura-t-il d'autre choix que de faire appel à elle ? Florence Parly, ministre des Armées, sera mon invitée.
A tout de suite sur Europe.
Il est 8h16, Nico Saliagas.
La ministre des Armées, Florence Parly, et votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Dans moins de 2 heures, le président reçoit à l'Élysée des représentants politiques et syndicaux pour tenter de trouver une sortie à la crise des Gilets jaunes. L'ironie de la situation, c'est que Laurent Berger, le patron de la CFDT, avait proposé cette réunion il y a 3 semaines. Et voilà ce qu'Édouard Philippe lui avait répondu.
Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux.
Dans le fond, Emmanuel Macron fait exactement ce que son Premier ministre refusait de faire.
D'abord, je voudrais dire que le mouvement auquel nous assistons est un mouvement d'un type tout à fait nouveau et qui incite à beaucoup d'humilité. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui disent avoir eu raison avant tous les autres. Je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est celui qui consiste à tenter de trouver des solutions, de préserver l'unité de notre nation, de mettre fin à ces violences qu'on a vues déferler pendant deux week-ends.
Mais
et
donc
de
en
pouvoir...
refusant la main tendue de la CFDT, le Premier ministre avait fait une erreur, clairement.
Et je voulais simplement terminer ma phrase. Et donc de pouvoir renouer les conditions d'un dialogue. Parce que c'est effectivement par le dialogue que notre pays retrouvera la voie de la sérénité.
Mais en refusant cette main tendue par la CFDT, le Premier ministre a trois trains de retard là maintenant.
Le Premier ministre a tendu la main. Il l'a tendue il y a plusieurs jours déjà, puisque vous vous en souvenez, la semaine dernière, il a d'abord annoncé des décisions, celles qui consistent à annuler tout principe d'augmentation de taxes sur les carburants. Il a annoncé également le fait que le prix du gaz et de l'électricité n'augmenterait pas. Et il a aussi annoncé, et c'est important, l'ouverture d'un grand dialogue qui doit se dérouler pendant trois mois et qui doit se dérouler non pas à Paris, mais sur les territoires. Et c'est un dialogue qui est destiné précisément à permettre à chacun de s'exprimer.
En tant que ministre, bon, je comprends que vous ne puissiez pas critiquer Édouard Philippe, mais quand même, en refusant obstinément de changer de méthode il y a trois semaines, il a une responsabilité dans le durcissement de cette crise.
Mais madame Crespo-Mara, je pense que ce qui est important maintenant, ce n'est pas de se demander si ce qui a été fait dans le passé était bon ou mauvais. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions concrètes et pragmatiques pour résoudre une crise qui met notre pays dans une situation très très difficile. Nos concitoyens ont exprimé un malaise, ils ont exprimé une colère. Hein, et je crois que maintenant, c'est de ce malaise et de cette colère dont il faut pouvoir parler. Il faut pouvoir aussi en parler de façon organisée, parce que une des difficultés auxquelles non seulement le gouvernement, mais l'ensemble des partis politiques, les organisations syndicales se heurtent, c'est qu'il n'y a pas de représentants dans ce mouvement.
En attendant, reçoit donc des représentants politiques et syndicaux ce matin. Clairement, il change de méthode de gouvernement. Quand on veut changer de méthode de gouvernement, on change de Premier ministre. C'est ce qu'Emmanuel Macron va annoncer ce soir à 20h.
Mais le sujet n'est absolument pas là. Le Premier ministre a été, soutenu de façon écrasante lors d'un vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière. 358 voix en faveur du Premier ministre. Donc je ne crois vraiment pas que la difficulté soit là. Au contraire, nous avons un Premier ministre qui tient la route, qui a géré l'ensemble des opérations de maintien de l'ordre avec beaucoup d'efficacité en lien avec le ministre de l'Intérieur. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est comment répond-on à cette colère qui s'est exprimée de façon tout à fait nouvelle. Encore une fois, c'est un mouvement d'une nature singulière. Et comment y parvient-on ? Eh bien, c'est par le dialogue que l'on y parvient.
Vous qui êtes ministre des Armées, vous avez été aussi secrétaire d'État au budget de Lionel Jospin. Deux des principales revendications des Gilets jaunes sont pour l'instant exclues par le gouvernement. Le retour de l'ISF et la hausse du SMIC. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est contre parce que ça détruit des emplois. Votre message aux Gilets jaunes, c'est moins vous serez payé, plus les patrons auront envie de vous embaucher ?
Mon message aux Gilets jaunes, c'est que je crois que nous avons un point commun, et le président de la République l'a énoncé fortement pendant sa campagne présidentielle, c'est la revendication que le travail, et en particulier les salaires, assure des conditions d'existence dignes.
Donc le
que
SMIC le travail devrait être rehaussé.
Et donc, pour y parvenir, il y a plusieurs manières d'y parvenir. Et il n'y a pas une solution unique et simple.
C'est-à-dire qu'on peut augmenter les salaires sans passer par le SMIC, c'est ce que
vous dites. Il y a d'abord des moyens que nous avons commencé d'activer. C'est la baisse des cotisations sociales. Pourquoi est-ce que c'est un outil efficace ? C'est parce que baisser les cotisations sociales, ça permet d'une part d'alléger le coût du travail. Et alléger le coût du travail, c'est ce qui doit permettre à l'économie française de créer plus d'emplois.
Mais ce sont des mesures que vous avez déjà faites et qui ne suffisent pas aux Gilets jaunes aujourd'hui.
Si je peux terminer. Et d'autre part, ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Alors, il peut y avoir une discussion, en effet, sur le rythme auquel ces mesures produisent des effets. Et je crois que c'est ça que les Français qui sont aujourd'hui en colère manifeste, c'est une impatience à ce que ces mesures produisent
donc
des effets.
Donc les faire venir plus tôt.
Alors, ensuite, il peut y avoir des revendications par ailleurs sur le SMIC. Le SMIC, d'ailleurs, il a augmenté. Il a augmenté de 3% au cours des 18 derniers mois. Bref, donc il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, ce qui a été fait n'a pas encore été compris et perçu.
Mais ce n'est pas juste
et
un problème de compréhension. Je ne pense pas que les Français soient bêtes.
Ils
voient bien ce qu'ils
perception.
Ont dans leur compte bancaire. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour calmer les Gilets jaunes vont coûter cher, en tout cas. Il va falloir trouver de l'argent. Le budget de l'armée pourrait-il être amputé pour aider à remplir le frigidaire des Gilets jaunes à Noël ?
La question, c'est d'abord de savoir quelles sont les mesures qui seront annoncées à court terme par le gouvernement.
Mais est-ce que votre budget pourrait être amputé ?
Et ensuite, vous savez, tous les ministres sont solidaires au sein d'un gouvernement et nous déciderons de la manière dont ces mesures auront vocation à être financées. Moi, je n'exclus rien. Et évidemment, je suis parfaitement solidaire de décisions que le gouvernement prendra.
Florence Parly, l'Élysée annonçait qu'un noyau dur de plusieurs milliers de personnes allait venir samedi à Paris pour casser et pour tuer. Après coup, on peut se demander si vous n'avez pas exagéré la menace pour dissuader les Gilets jaunes de venir manifester à Paris.
Je pense que la menace, malheureusement, était très élevée et nous l'avons vu encore samedi dernier. Je pense que si ces avertissements n'avaient pas été donnés, probablement la violence aurait été encore plus forte.
Moment était-il prévu de faire intervenir l'armée ?
Il n'a jamais été prévu de faire intervenir l'armée.
Si la police et les gendarmes avaient été dépassés, rien n'était prévu derrière pour protéger les institutions ?
Nous avons un dispositif qui permet à l'armée d'être présente sur le territoire national pour faire de la lutte antiterrorisme. Et cette lutte antiterrorisme, elle est réalisée à la fois par les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, et l'armée. Et donc, depuis un an, nous avons un système qui s'appelle Sentinelle, qui a été adapté et qui permet d'opérer en complémentarité entre les policiers et les militaires. Et donc, bien évidemment, chaque fois qu'il y a des événements d'une nature un peu particulière, les militaires prennent une part plus importante de la lutte antiterrorisme, ce qui permet de libérer des forces de sécurité intérieure pour assurer le maintien de l'ordre. Mais ce qui est une chose qui est sûre, c'est que l'armée n'est ni faite, ni équipée, ni entraînée pour réaliser du maintien de l'ordre.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, demande à Donald Trump, jamais avare d'un commentaire sur les Gilets jaunes, de ne pas se mêler de politique intérieure française. Vous avez aussi, vous, envie de lui dire de se mêler de ses affaires ?
La France ne fait jamais de commentaires sur les affaires de politique intérieure des pays étrangers. Donc nous sommes fondés à exiger la réciproque.
Merci Florence Parly.
Merci beaucoup.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. C'est tous les jours à 8h15 et puis à partir de 20h, l'allocution du président de la République sur notre antenne. Intervention suivie d'une édition spéciale jusqu'à 21h sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 8h25.
À suivre la revue de presse de David Abiker. Dans la presse ce matin, le philosophe Pascal Bruckner sans filtre casse les casseurs. 8h45, le fauteur de troubles du 7-9. Nicolas Canteloup sur Europe 1. Bonne matinée à tous. On vous accompagne jusqu'à 9h.
La revue de presse de David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, il y a un peu de soleil.
Ah, il y en aura un petit peu dans le courant de l'après-midi, c'est vrai. Alors, ce matin, c'est quand même assez humide à peu près partout. Dans l'après-midi, les éclaircies vont apparaître, surtout sur des régions comme la Bretagne, le Poitou-Charentes, le sud-ouest, la Normandie, le nord. La région parisienne aura sa petite dose de soleil aussi, alors que dans l'est, eh bien, nous resterons sous une couche nuageuse et quelques averses. Près de la Méditerranée, le vent se calme. En ce qui concerne la journée de demain, mardi, ce sera agréable, mais les températures vont vraiment baisser. Mercredi, une perturbation de pluie va arriver par l'ouest, par la façade atlantique et par le sud-ouest. Donc dans ces régions, il pleuvra. Ailleurs, ce sera froid, mais relativement éclairci. Et puis jeudi, vendredi, samedi et dimanche, eh bien, nous renouerons avec le temps que nous avons jusqu'à présent, c'est-à-dire un temps agité avec des passages pluvieux et une remontée du thermomètre. Bref, c'est l'histoire qui se répète.
Merci, merci Laurent Cabrol. Dans un instant, la revue de presse, que disent les journaux précisément à quelques heures de l'allocution du président de la République ? Réponse avec David Abiker.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Je passais un petit coup de fil à Kev Adams, l'humoriste qui est en plein rodage d'un nouveau spectacle qui est prévu pour 2019. Il nous raconte tout dans un instant. Il y aura aussi à 8h45 Nicolas Canteloup et son cortège de personnages, de voix qu'il imite pour la revue de presse, accompagné de Julie. Mais tout de suite...
Nous sommes le lundi 10 décembre et il est 8h30.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
L'heure de la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Nikos. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler du Brame du cerf, parce que j'ai regardé la une du chasseur français du mois de décembre. On y voit un cerf magnifique avec sa belle couronne de bois, photographié dans les herbes folles, peut-être à la croisée des chemins. Et ce titre de une, « Le retour du roi ». Le cerf, autrefois menacé, notamment sous la Révolution, le cerf revient dans nos forêts, un cerf en majesté. Et si vous vous intéressez au Brame du cerf, vous noterez, grâce au site cerf.free.fr, que le royal animal s'exprime dans la nuance et selon les enjeux. Il y a le brame de présence pour dire qu'il est là, et bien là. Le brame de langueur pour signifier la tristesse. Le brame de défi. Le brame de poursuite, pas la poursuite des réformes. Hein, ou bien le brame de triomphe. Et dans la presse de ce matin, ce n'est pas le brame du roi de la forêt qu'essaient d'anticiper les journaux, mais la parole du monarque républicain ce soir à 20h. Que dire à la nation ? Tous les éditorialistes ont leur idée, comme si la parole du chef était surnaturelle. Mais non, un homme ne peut pas tout, alors on citera François-Xavier Lefranc de Ouest-France. Voilà ce qu'il dit. « Tout ne peut pas venir de l'État. Il est urgent de laisser plus de marge aux régions et aux territoires, leur capacité d'initiative, d'innovation solidaire, de créativité, au plus près des réalités du terrain, au plus près des citoyens, sont une grande partie de la solution. » J'ai terminé. Voilà, vous l'entendez, le brame du cerf, en attendant la parole du chef.
Et on démarre ce matin, après ce bestiaire et ces sons animaliers, avec l'interview fracassante du philosophe Pascal Bruckner dans le Figaro. Ah, il envoie du bois.
Et voilà, exactement. Avant ça, quand même, un mot sur le Parisien aujourd'hui en France, qui revient ce matin sur le profil des 1700 personnes interpellées en France samedi. La moitié sont des gilets jaunes sans antécédent judiciaire. À Paris, sur les 974 gardés à vue, 20% sont des casseurs. Et dans le Figaro, donc, le philosophe Pascal Bruckner les assomme. Celui qui commet des violences, dit-il, n'est plus une victime. C'est un barbare. Et il cite Pascal. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Et il dénonce la coalition des violents, gauchistes, zadistes, fascistes, black blocs, jeunes de cité, pillards, tous frères ennemis, mais frères siamois. Et il s'en prend aussi à ceux qu'il appelle les professeurs de haine. Ruffin, Mélenchon, Besancenot, Emmanuel Todd. Ils veulent le chaos, faute d'avoir été suivis dans les urnes, et voient la violence comme une accoucheuse de l'histoire, pensant que le pays va tomber dans leurs mains comme un fruit mûr. Quant aux vandales, pour eux, brûler des voitures, détruire des abribus, caillasser les flics, est une manière de passer le baccalauréat de la rue. Pascal Bruckner ne se bat pas avec un marteau, mais un stylo ce matin, c'est à lire dans le Figaro.
Et de baccalauréat, il en est aussi question en une de Ouest-France, David Abiker.
Il est contesté, le bac, par la mobilisation lycéenne, mais dès 2021, le nouveau bac va révolutionner le lycée. 40% de contrôle continu, des épreuves mieux réparties sur la première et la terminale, la fin des séries scientifiques, économiques et sociales et littéraires remplacées par des spécialisations. Objectif, mieux préparer à l'insertion professionnelle et améliorer la réussite dans l'enseignement supérieur. Pour Christine Morisson, qui est proviseure du lycée Léon dans le Finistère, cette nouvelle organisation, c'est moins de stress, moins de pression à l'examen et ça ressemblera un peu à ce qui les attend à la faculté. Mais heureusement, on pourra continuer à faire par exemple du latin, de l'économie et pratiquer les fameuses sciences et vie de la Terre, les SVT. Alors peut-être enseignera-t-on en SVT un jour que la France est troisième au classement mondial du système alimentaire le plus durable selon The Economist Intelligence Unit, comme le rappelait tout à l'heure Axel de Tarlé, ce qui donnera du baume au cœur des agriculteurs qui manifestent aujourd'hui. Peut-être enseignera-t-on aussi en SVT cette technique, présentée ce matin dans le Chasseur français, il faut lire le Chasseur français, pour éprouver la qualité de nos terres agricoles. Ça vient du Canada et c'est testé dans le Var. On enterre dans les sols des slips, des dizaines de slips en coton bio. Je vous assure, vous enterrez les slips en coton bio, okay. Vous les y laissez 2 mois, plus le slip ressort sale, troué, dégradé, plus la terre est de qualité. Pourquoi un slip, me direz-vous, Nikos ? Eh bien, tout simplement parce que l'élastique résiste, lui, à la corrosion, et donc on peut le retrouver plus facilement. Et on lira pour terminer Sud-Ouest, et on y verra la... Oui, on y fera la connaissance de Cécile et Elisabeth. Ces deux jeunes femmes qui occupent un rond-point dans les Landes, le week-end, ont constaté un taux de célibat important chez les Gilets jaunes. Alors elles ont créé sur Facebook « Adopte un gilet jaune ». 40, c'est le département des Landes. Samedi, ils étaient 20, hier, ils étaient 1600. Et ça pourrait confirmer ces paroles d'Emmanuel Macron à ses conseillers rapportées hier dans le JDD, dans le journal du dimanche. « Quand il y a de la haine, c'est qu'il y a une demande d'amour ». On se console comme on peut.
Partenaire particulier,
très en forme ce matin, David Abiker. Alors, le coup du slip qu'on enterre pour voir si nos sols, la qualité de nos terres agricoles est encore là, c'est fort ça.
Il faut garder les vôtres, Nico, si vous les mettez dans votre jardinière.
Écoutez, je pensais qu'on polluait, mais bon, mais si vous le dites. Merci, David Abiker.
Europe 1.
Il est 8h35.
Kev Adams, au téléphone dans quelques instants, le jeune humoriste. Rôde sa tournée et puis la revue de presse avec Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Il est 8h36. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La crise des gilets jaunes et ses conséquences économiques. Les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance au dernier trimestre. Déclaration ce matin du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Journée décisive pour Emmanuel Macron, on l'a dit, le chef de l'État va dialoguer avec les partenaires sociaux, les associations d'élus tout au long de la journée. Il s'adressera ensuite aux Français depuis le Palais de l'Élysée à 20h. Allocution à suivre en direct sur Europe 1 ce soir. Dans l'actualité également, la garde à vue de Carlos Ghosn prolongée à Tokyo au Japon 3 semaines après son arrestation. Le patron de Renault va rester derrière les barreaux.
Europe 1. Nico Saliagas, c'est votre journée.
Coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, on est en ligne avec Kev Adams. Bonjour Kev.
Bonjour Nikos, comment allez-vous ?
Ça va très très bien, content de vous avoir. Vous êtes où exactement ce matin ?
Je suis à Marseille présentement.
Alors c'est comment l'ambiance à Marseille ? Vous avez joué devant un petit comité, comment ça
exactement.
S'est passé ?
Exactement, on a joué dans une toute petite salle, dans une salle déjà très acceptable devant 100 personnes hier soir.
Pourquoi vous êtes, vous êtes en rodage, c'est ça ?
Exactement, on est en train de roder le nouveau spectacle en ce moment et c'est très agréable de regoûter aux petites salles, vraiment, c'est de là d'où on vient quand on fait de l'humour et c'est très très agréable de revenir à ça et de prendre beaucoup. Enfin, il y a un vrai échange quoi avec les gens, il y a quelque chose qui se passe qui est un peu magique qu'on retrouve pas toujours après dans les grandes salles. Donc là, on travaille, on est à l'école quoi.
C'est facile de faire rire les gens en ce moment parce que j'imagine, voilà, vous suivez l'actualité, c'est tendu.
Bien sûr.
Ils disent quoi ceux que vous rencontrez, ceux qui étaient dans la salle justement?
Écoutez, je crois qu'au contraire, justement, les gens ont besoin de rire, on a besoin de ça. Je pense que les gens ont besoin d'être ensemble. Il y a un grand besoin de solidarité en ce moment dans le pays. C'est ça que je ressens, moi, c'est ça qui me touche aussi. Oui, bien sûr, les gens ont besoin de rire, c'est cool, ça leur fait du bien. Je crois que les spectacles du monde n'ont jamais aussi bien marché dans notre pays. Et c'est pas pour rien, c'est que les gens ont vraiment besoin de ça, ils ont besoin de se détendre.
Décompresser aussi.
Exactement, évidemment, les gens... Les gens sont furieux, ils ont leur raison de l'être et ils ont besoin d'être solidaires, besoin d'être ensemble et besoin d'aller dans le même sens. Et c'est un peu ça aussi un spectacle d'humour, c'est rire tous ensemble, malgré le fait qu'on vient tous d'origine,
ouais.
Exactement, d'horizons différents, d'origine ou de niveau social différent. Quoi. C'est ça aussi qui est intéressant.
On ne sait pas grand-chose sur votre nouveau spectacle. Hein. Vous gardez le secret. Il faut s'attendre à quoi, Kev Adams ?
Ah, vous savez, ça c'est gardé extrêmement secret pour l'instant, monsieur Nikos, ça c'est... Tous les secrets sont en ce moment en Grèce, dans une petite boîte, dans une maison de votre famille.
Non, mais vous parlez de quoi? Un peu de votre famille, justement. Vous faites référence à votre quotidien, j'imagine, à vos référents. Vous parlez de votre grand-père. Il était important, votre grand-père, dans votre vie. On en avait parlé sur Europe 1.
Je parle vraiment de tous les sujets. Tout à fait, on en avait parlé sur Europe 1 il y a quelques temps lors d'une balade. Et je parle de tous les sujets dont j'avais vraiment envie de parler. Ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier. C'est une chance. Réel, quand j'ai démarré il y a 10 ans, beaucoup de gens me disaient: mais vous Kev, vous êtes un boys band, vous allez disparaître en 2-3 ans maximum, et j'y ai vraiment cru quoi. Et donc forcément d'être là aujourd'hui 10 ans après, j'ai plein de choses, plein de frustrations que j'avais envie d'évacuer, mais aussi plein de joie que j'avais envie de partager avec le public. Et donc je reviens sur plein de sujets. Alors oui, ça parle de ma famille énormément puisqu'ils ont toujours été très présents, mais ça parle aussi effectivement de mon grand-père qui a été ma plus grande inspiration. Ça parle aussi de toutes les petites aventures et les cadeaux qu'on m'a fait depuis 10 ans, que ce soit de la part du public, mais aussi de mon passage, par exemple, à un rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Je parle également de toute ma... J'ai l'impression de vieillir énormément en ce moment. Moi, on m'a beaucoup dit que Adam, c'est pour les ados, c'est les jeunes. Ouais. Donc, je dis que j'ai l'impression de vieillir. C'est super bizarre à 27 ans. Enfin, voilà, quoi. Plein de sujets que j'avais vraiment envie d'aborder. Et que j'avais vraiment envie de défendre devant le public. C'est un spectacle important pour moi puisque c'est aussi un tournant quoi. J'ai l'impression d'avoir un autre ton et d'essayer de garder mon style tout en essayant de faire évoluer le propos quoi.
C'est votre 4e spectacle. Vous avez déjà près d'une 20aine de films dans votre filmographie. Dernière question, Kev Adams, en 10 ans, qu'est-ce que vous avez appris ?
J'ai appris que c'est un métier dans lequel c'est un éternel recommencement. Et c'est ça aussi qui me plaît, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 ans, je me disais, mais c'est le début, c'est pour ça que je travaille autant et que je mets autant d'énergie, c'est parce que c'est le début. Et en fait, aujourd'hui, j'en mets presque encore plus qu'il y a 10 ans. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans ce métier, et dans plein de métiers aussi, je pense. C'est un éternel recommencement, finalement, la vie. On pense qu'on y arrive, mais on n'y arrive jamais vraiment.
Et on recommence à chaque fois.
Et c'est ça aussi qui est un grand plaisir.
Merci beaucoup Kev Adams d'avoir été avec nous. Vous serez du 13 décembre au 16 décembre à Lille pour justement roder votre spectacle de 2019, à Nantes le 20 décembre, 23 décembre. Et puis vous serez à partir du 3 janvier à Bordeaux et à Rouen du 14 janvier au 15 janvier. Et ensuite, c'est parti au mois de février pour la tournée. Kev Adams sur Europe 1 ce matin.
Europe 1. Il est 8h41, à suivre Nikos.
Kev Adams l'a dit, les gens ont besoin de rire.
Ben
nous on en a un, il est à vous aussi. C'est Nicolas Canteloup, la revue de presse qui est Julie dans quelques instants. A tout de suite.
Il est 8h43.
Accrochez-vous, il arrive. Votre ceinture est là.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup.
Et Julie.
Et on va commencer avec vous, Nikos. Hein, on
Merci.
Peut plus passer de vous. Allez, le rappel
Merci.
Du titre principal.
Merci, ma Julie. L'actu surround du morning. Bonjour à tous. C'est le Japon. Carlos Ghosn est inculpé pour dissimulation de revenus sur 5 ans. Un grand patron en prison, voilà peut-être une mesure qui va plaire aux gilets jaunes. Une bonne idée à creuser pour ce soir, pour le président. Et puis, du Japon à l'Amazonie, il n'y a qu'un pas.
Oh oui.
Si. Ah si, si. Si on fait le tour par derrière, ça passe.
C'est vrai, c'est
vrai. Europe 1 va plus loin, vous l'avez compris. Il va en Amazonie amazonienne, carrément. Nous sommes partis à la rencontre d'une tribu semblable aux gilets jaunes.
Ah bon ?
Les étuis jaunes. Une tribu indienne. Qui se révolte
et tu...
pour son... Oui, oui, mon cher...
On voit tous ce que c'est, Nico.
Une tribu indienne qui se révolte pour son pouvoir d'achat dans la forêt en portant des étuis péniens jaunes
voilà.
Fluorescents. C'est passionnant.
Merci, Nikos. Allez, on va bien sûr parler de l'allocution présidentielle de ce soir, mais également du pacte de Marrakech que la France s'apprête à signer.
Et Jean, au secours ! Au secours ! Oui, bonjour, c'est Jean-Marie Le Pen. Et, oui, vous m'avez reconnu. Et des vagues, n'est-ce pas, de Togolais, et des tsunamis de Camerounais, et des rats de marée de Congolais. Et sachez-le, mes chers concitoyens, vont déferler sur nos centres-villes.
Attendez, vous l'avez lu, ce pacte de Marrakech, Jean-Marie Le Pen ?
Non, pas du tout, pas du tout. Rien que le titre, je sens que je ne l'ai pas apprécié. Vous savez, c'est comme ces films que vous jugez, n'est-ce pas ? Juste en passant devant une devanture de cinéma. Pacte de Marrakech. Rien que le nom,
Il y a beaucoup d'intox qui circulent sur Internet, sur ce pacte. Pour info, il n'est pas juridiquement contraignant. Il prévoit même de limiter le nombre de migrations, de faciliter le retour des migrants en toute sécurité, ainsi que leur réintégration durable. Voilà ce qu'il y a dans ce pacte.
De faciliter, dites-vous.
Le retour des migrants.
Le retour des migrants.
Oui,
oui. Merde, mais... Et alors vive le pacte de Marrakech. Et qu'est-ce qu'il attend pour le signer, ce nigaud de Macron? Allez, yalla, tous à Marrakech.
Ouais, ouais, pardonnez-moi de m'émisser. C'est Jean-Pierre El Kasbah. Je connais bien la maison. Je connais... Une petite auberge de jeunesse au Maroc sur place qui s'appelle la Mamonia.
Ah, ça fait longtemps, tiens.
On peut être logé très correctement pour pas cher.
Oui.
Je crois même que maintenant ils ont l'eau courante.
Bah oui, on le prend aussi. Oui. Merci d'être passé en tout cas, Jean-Pierre.
Avec plaisir, si je peux rendre service.
Emmanuel Macron s'adresse donc à la nation ce soir. Il devait être à Marrakech, ce lundi, mais il a finalement annulé. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Alors pourquoi cette annulation ?
Eh bien, grâce à mon 6e sens politique, je me suis dit, mon Manu, oui, comme je m'aime bien, je m'appelle souvent mon Manu. Mon Manu, donc, si pendant que la France est à feu à sang, on te photographie à Marrakech, au bord de la piscine de la Mamounia, tout sourire avec une gorge de gazelle dans la bouche et un thé à la menthe, je sens que ça peut être mal interprété.
Ah, vous croyez ?
Oui, vous savez, c'est qu'il est susceptible en ce moment, le français. Je le sens soupolé, n'est-ce pas, Jean-Michel Apathy ? Ils sont chafouins en ce moment, les Français. Bref, les gilets jaunes m'ont niqué mon week-end à Marrakech, mais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas.
Bon, alors votre allocution de ce soir va être décisive hein, pour l'arrêt ou la poursuite du mouvement, Monsieur le Président.
Oui, hein? Oui, j'ai entendu Jean-Michel Apathy, comme si j'avais pas assez la pression comme ça.
T'as intérêt de sortir l'allocution de ta life, sinon on est foutu. C'est la guerre ou la paix, ils vont te cramer l'Elysée, te défoncer le Panthéon, t'exploser le Parlement. Oh non, on arrête de jouer avec mon patrimoine, il suffit. Oh, et pourquoi pas les Véran Odakina aussi.
Ah oui. Alors depuis la rentrée, ça a été très difficile pour vous, hein, Monsieur Macron, votre mois de décembre, et pire encore. Comment vous vivez ces semaines, Monsieur le Président?
Vous savez, quand vous êtes président, même si je sais que sur cette table, ça ne vous arrivera jamais.
Merci.
Il y a un état de grâce qui dure 100 jours. Et puis derrière, un état d'emmerde qui dure 4 ans et 10 mois.
Ah ben voilà.
Je suis en plein dedans.
Alors, terminons sur une note positive. Hein. Vous avez déclaré à propos des Gilets jaunes, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a aussi une demande d'amour. Oui, ce sera votre message
d'amour.
Ce soir ?
Oui, une demande d'amour. J'ai envie de dire, crois-moi, peuple de France. Je vais te donner du plaisir. Je vais te caresser le contrat social. Je vais te pilonner de mesures fiscales à t'en faire mordre les coussins. Je vais faire crier la République de plaisir.
Écoutez, Monsieur Macron, s'il vous plaît.
Oui, bébé, oui. Écoute-moi. Et sens ton pouvoir d'achat grossir et se redresser. Tu as besoin d'amour, bébé. Je suis ton homme.
Monsieur le Président.
Je t'aime, peuple de France. J'ai hâte qu'on fasse des enfants, toi et moi. Des enfants qui s'appelleront Croissance et Plein Emploi. Oh yeah, I love you, babe.
Oui, bon, ben. On va arrêter là, je crois. Préparez votre allocution pour ce soir. Hein.
Oui, je vais retravailler un petit peu.
Oui, s'il vous plaît, oui. Allez, on va revenir sur ce quatrième dimanche de violence dans la capitale. Emmanuel Macron n'a rien pu faire pour les empêcher. François Hollande, bonjour.
Hey, bonjour.
Alors, votre réaction?
Ah bah écoutez, bravo le gamin. C'est plus un président, c'est Julien Lepers. Bravo, 4 à la suite, c'est magnifique. Magnifique samedi, quelle régularité dans le bordel.
Cela dit, le ministère de l'Intérieur a été félicité pour sa gestion de la situation, en particulier à Paris, Monsieur Hollande.
Ah mais tout à fait. Bon, écoutez, franchement, tout le monde s'accorde à le dire. C'était un super samedi pour les Parisiens. Des tanks, des hélicos, des chiens d'attaque, la cavalerie. J'ai pas vu de sous-marin, mais il devait être là. Un samedi normal sous Macron, quoi.
Vous êtes très ironique, hein, François Hollande, ce matin.
Pas du tout. Je comprends. Macron, c'est mieux. Moi, j'étais un président, disons-le, on peut le dire aujourd'hui, trop normal. Je proposais aux Français des samedis normaux, où ils allaient faire leur course de Noël normale, sans se prendre un pavé, une bombe lacrymo, sans se faire cramer la bagnole. C'était d'un chiant. Hein, là, avec Macron, avec le gamin, il se passe des trucs. Hein, vous avez l'impression à chaque coin de rue d'être sur le tournage d'Apocalypse Now ou d'Independence Day. C'est beaucoup plus sympa, c'est
bon,
festif.
Et c'est bien beau de critiquer, mais l'heure est aux solutions. Vous avez des solutions, vous ?
Déjà sur un autre ton. Mais il suffit de suivre mon exemple. Je pose la question à vous, Jean-Michel, Monsieur Bicard, Madame Bouchard. Savez-vous combien de magasins ont été vandalisés à Tulle? Dites un chiffre.
Bah, au hasard, je sais pas, moi je dirais 2.
Non. Eh bien non, vous voyez, vous êtes tout faux. Zéro.
Jean-Michel Apathy a trouvé zéro.
Alors certes, peut-être parce qu'il n'y a plus de commerce à Tulle depuis que j'ai géré la mairie, mais ça prouve que ma politique fonctionne. Et l'équation est très simple. Pas de commerce, pas d'argent, pas de pillage.
Ah bah c'est pas faux.
Bravo.
Merci,
bravo.
Monsieur Hollande.
Il fallait y penser. Oui.
Allez, direction Bordeaux maintenant. Les violences ont été nombreuses à Bordeaux. Alain Juppé, vous êtes en duplex de votre ville. Alors c'est rare quand même ce genre de situation à Bordeaux.
Oui, Madame Julie Bordeaux, qu'on appelait la belle endormie, s'appelle désormais la belle cramoisie. Ouais. Voilà, c'était très chaud à Bordeaux. J'ai vécu un tel stress ce week-end que j'en ai perdu mon dernier cheveu du dessus. Enfin, regardez, il était là, il était implanté ici.
Il n'y est plus,
il n'y est plus. Ah, vous voulez voir Si, si, Madame Dacosta, regardez, il n'y est plus.
Céline, il n'y est plus là.
Oui, bon, ça va maintenant. C'est bon,
il est dans votre main maintenant.
Ah, le poil dans la main, bravo, Nikos.
Ce n'est pas mon genre, monsieur Aléa.
Alors, comment se fait-il que de telles violences aient eu lieu à Bordeaux? C'est une ville plutôt calme d'habitude, hein, la Juppé.
Eh bien, je crois, c'est mon analyse, que les Bordelais sont en colère. Ou alors j'ai une autre théorie, quand mon ami tous les policiers à Paris et que Bordeaux est à 2 heures de TGV, les casseurs sont venus servir chez nous, ce qui était du coup plus simple.
Oh là, qu'est-ce que c'est? Mais il y a encore des émeutes là?
Oui, tout à fait, vous savez, c'est terrible. Ce matin, j'ai reçu une famille de migrants à Bordeaux.
Oui. Ils venaient d'Alep. Hein. Ils avaient traversé la Syrie en guerre, la Turquie à pied, la Méditerranée à la nage, et ils ont atterri à Bordeaux. Eh bien, les malheureux veulent rentrer en Syrie. Ils disent que finalement, c'est moins dangereux là-bas. Il est fort, Macron. Il a peut-être trouvé la parade aux migrants.
Oui, c'est Didier François.
C'est Didier.
Moi aussi, je rentrais à Alep avec eux. Je veux plus rester dans Paris Centre, c'est trop violent. Ça pète dans tous les sens. Renvoyez-moi à Damas, à Kaboul, à Alep, mais pas dans le 8e, ça fout trop les jetons.
Très grand reporter, Didier François.
Bravo Nicolas Canteloup, la revue de presse avec Julie, c'est tous les matins à 8h40. À partir de 9h ce matin, Wendy Bouchard, on va essayer d'être à l'heure ce matin.
Tout va bien.
Au sommaire de votre émission, ma chère Wendy.
Alors, chers amis, évidemment, nous reviendrons sur la parole tant attendue ce soir d'Emmanuel Macron. Rarement, quand même, une parole présidentielle aura été si scrutée. Il cristallise, vous le savez, toute la colère politique et sociale du moment. Quel dénouement possible ? Et surtout, pour vous, les Gilets jaunes doivent-ils changer de méthode maintenant pour se faire entendre, comme le suggère d'ailleurs Alain Juppé, dont nous parlions un instant. Alors, on va revenir ensemble sur tout cela, sur les enseignements aussi de ce samedi. Noir. Puis à 10h, je vous propose un peu d'évasion. On va parler de l'intelligence animale avec 35 créatures incroyables. Du lézard qui marche sur l'eau à la méduse qui rajeunit. C'est quelque chose. Hein. Le biomimétisme n'a qu'à bien se tenir. À tout à l'heure.
Merci Wendy. Merci. Bouchard. Beaucoup de réactions après Canteloup et après nos différentes interventions, interviews, analyses avec Astrid qui nous dit « En ces temps troublés, ça fait du bien de commencer la semaine en riant avec vous Nicolas Canteloup et avec Julie. » Merci Astrid. Restez à notre écoute et vous pouvez commenter la matinale avec le hashtag Europe 1.
À suivre l'essentiel de la matinale, ce sera juste avant 9h et puis la météo avec Laurent Cabrol, il est 8h54.
A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h56, à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nicolas.
Mon cher Laurent Cabrol,
oui.
Comment est-ce qu'on doit s'habiller ce matin?
Bon, on s'habille, ça dépend. Je vais vous donner les régions où on peut s'habiller légèrement parce qu'il va faire beau dans l'après-midi. Mm-hmm. Partez chargé et vous déshabillez au fil des heures. Ah, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, puis la Normandie, le Nord, le Limousin, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Roussillon et la région parisienne. Vous pouvez faire l'impasse sur... non, pas sur le parapluie. Non, vous en avez besoin ce matin et vous en aurez un peu besoin cet après-midi, mais très peu. Sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Centre, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, ce sera des averses pratiquement toute la journée. Donc n'hésitez pas à prendre votre parapluie sur le bassin méditerranéen, du vent avec du soleil. Les températures entre 7 et 13 degrés. 13 à Bordeaux, 10 à Paris, 9 à Lille, 7 degrés à Nancy. Et pour les températures les plus douces, à Nice, 18 degrés. Demain, il fera beaucoup plus froid. Mais ce ne sera pas mauvais comme journée, même plutôt sympa. Il y aura pas mal d'éclaircies, voilà.
A tout à l'heure, mon cher Laurent Cabrol, sur l'antenne d'Europe 1.
Nous sommes le lundi 10 décembre. On revient sur les moments forts de cette matinale avec vous, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Après un quatrième week-end de mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron sort de son silence. Le président de la République s'adressera à la nation à 20h ce soir. Une intervention capitale, nous disait ce matin à 7h40 Jean-Michel Apathy.
Si Emmanuel Macron ne satisfait pas les revendications des Gilets jaunes, qui sont exorbitantes et contradictoires, on peut craindre le pire, d'autant que les souffleurs de braise sont toujours là. Donc, ce soir, Emmanuel Macron doit prononcer l'allocution de sa vie. Il tient entre ses mains le destin de la nation.
Il est le Deus ex machina, celui qui peut libérer tout le monde, en fait.
Il l'est à cause de son arrogance, de ses maladresses et de son manque de clairvoyance.
Alors, quelles mesures peut-on attendre du président de la République à 7h45 ? Je posais la question à l'un de ses plus proches conseillers, l'économiste Alain Minc.
Je pense que la désindexation des retraites a été un geste extrêmement lourd et qu'il faut revenir dessus. D'autre part, en province, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de versement de transport, il n'y a pas de carte Navigo. Donc il était essentiel de mettre en place un système d'aide individuelle au transport. Ça va être fait. Troisièmement, je crois que les entreprises, en tout cas les grandes, ont une aisance financière telle qu'elles peuvent faire un geste de fin d'année.
Ces annonces éventuelles du président de la République peuvent-elles suffire à calmer la colère des Gilets jaunes ? Pas pour Gabriel, qui tient un barrage dans le sud de la France. Pour lui, rien ne changera. Écoutez, c'était dans le journal de 8h.
On ne va pas l'écouter. C'est trop tard, oui. La cassure a eu lieu et les gens qui sont ici ont besoin de fraternité, ont besoin de convivialité, ont besoin d'amour. Tout ce qui s'est perdu, c'est pas une connerie, c'est tout un système. Ça vient pas de Macron, c'était en ébullition et puis ça a explosé.
L'allocution présidentielle en direct dès 20h sur Europe 1, suivie d'une édition spéciale jusqu'à 21h, présentée par Mathieu Bellière. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Tout ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques. Merci à vous de nous faire confiance en ce lundi pour bien commencer la semaine ensemble. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, Wendy Bouchard. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.
Et merci à vous, Nikos. Restez sur Europe 1 avec Wendy Bouchard jusqu'à 11h. Il est 9h.